Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bienvenue dans l'équipe est sauvage avec Mathieu Noël, toujours entouré de sa complice, Eva Rock, des journalistes d'Europe 1, en compétition chaque après-midi, vous le savez, pour remporter le titre de chroniqueur du jour, et d'un invité d'honneur dont le vote compte triple. Et puis le week-end, eh bien, on vous compile le tout. Cette semaine, Mathieu Noël recevait la romancière Anne Goscinny, l'animatrice Alessandra Sublet, l'acteur Samuel Le Bihan, l'écrivain Daniel Pénac et la comédienne Isabelle Carré, invitée vendredi dernier, le 24 janvier, lors de l'émission En Public. Et parmi les chroniqueurs en compétition, eh bien, il y avait Alain Sirot.
Personnage haut en couleur s'il en est, ponte de l'astronomie française, son statut de directeur de la rédaction de Ciel et Espace le place d'ailleurs au-dessus de ses camarades, si bien que lorsqu'on fait une déloc, il a, disons, ses exigences.
On ne peut pas partager de la même chambre d'hôtel, ah oui. Moi, c'est pas possible. J'ai envie de me balader à poil si j'en ai envie, oui. Je fais des bains moussants, je claque les portes, quelquefois je fais monter les putrus à 4h
oui.
du matin.
Oui, on verra là, on n'en est pas encore là, de toute façon on n'a pas le budget pour une déloc pour l'instant. Alain Sirot, vous nous parlez aujourd'hui de l'effet de la lune sur les plantes.
Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai chez vous un soir de discuter avec des copains, ah non, des copines, de l'influence de la lune sur le jardinage, par exemple. Oui. Vous allez tout de suite vous rendre compte que vous vous fâchez très vite entre ceux qui croient qu'il faut planter à la lune montante, à la lune descendante. Que certains disent, mais ce vin, mais c'est de la biodynamie, tu ne comprends pas. Ça a été développé parce que c'est la pleine lune et à eau. On ne plante pas n'importe quand. Tout ça est totalement sans base depuis très longtemps.
Il n'y avait pas d'études.
Non, il n'y avait rien de concret, rien qui montre que le vivant, en particulier les plantes, soit... Alors, ce n'est pas, je dirais, sujette à la pleine lune, parce qu'il y a un vrai effet, c'est la gravitation.
L'effet sur les marées, par exemple.
La lune et le soleil, ensemble font les marées. C'est-à-dire que c'est une force gravitationnelle, mais vous n'avez jamais vu non plus une piscine fermée pour cause de marée basse. Donc, ça veut dire que c'est une influence faible.
C'est vrai, ça.
Oui, ça vous épate, ça.
Oui, ça m'épate, effectivement.
Et donc, la première étude qui montre que le clair de lune, pas l'influence gravitationnelle, a un effet sur les plantes, a été présenté hier par... alors, c'est un groupe du CIRAD, c'est-à-dire ce sont des agronomes pour le développement. Et c'est presque accidentellement qu'ils ont découvert ça. Ils s'intéressaient en fait au caféier, c'est-à-dire l'arbre qui fait le café, vous voyez. Et ils étudiaient finalement le lien entre ce qu'on appelle l'horloge circadienne, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de la plante et qui permet à la plante de savoir s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il fait chaud, s'il y a des influences. Vous savez, les plantes, elles ont un atout et un inconvénient, c'est que ce sont des êtres vivants qui sont fixés par les pieds, qui ne peuvent pas bouger. Et donc, il faut qu'elles aient développé des récepteurs extrêmement sensibles, extrêmement fins, pour savoir si c'est le début de la journée, s'il fait chaud, si c'est les saisons, etc. Et ça s'exprime comment ?
C'est-à-dire que mon bégonia, il sait qu'il est 9h du matin et que j'ai oublié de l'arroser.
Exactement.
Il m'en veut.
Et ça, il le sait parce qu'il est plein de gènes. En fait, les gènes, c'est un peu comme... si vous prenez l'horloge au sens typique, c'est les rouages, en fait. Mmh. Et ces agronomes qui étudiaient la plante se sont rendus compte que au moment de la pleine lune, il y avait à peu près 10% de ces gènes qui s'exprimaient différemment. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui marquait une différence, une réaction de la plante à la pleine lune. Alors, ils ont fait quoi ? Ils ont mis un paquet de caféiers, en laboratoire sans pleine lune visible, et puis l'autre, ils l'ont laissé dans la nature. Et c'est très fin, parce que si vous prenez le soleil, c'est à peu près 100 000 lux. La lune, c'est de la lumière reflétée du soleil, c'est 0,2 lux. C'est quasi
c'est
rien.
Infime.
Si vous voulez bronzer à la pleine lune, il va falloir vous exposer 500 000 fois plus longtemps.
Oui. Alain, qui aurait l'idée de bronzer à la pleine lune ?
Je vous pose
la question. Je sais que vous avez une vie un peu différente de la mienne.
Non, parce que
vous évoluez dans d'autres cercles. Mais...
Parce que certains pensent qu'on peut se prendre des coups de lune.
Oui.
Alors, quand on se prend un coup de lune, on se dit combien de temps il faut s'exposer.
Présentez-moi vos amis, Alain.
Si, c'est vrai.
Ils sont très variés. Certains sont fixés au sol, d'ailleurs. Et donc, alors, ce qui est extraordinaire, c'est finalement, on a pour la première fois ce signal extrêmement faible de ce qu'une plante est capable de détecter ça. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ben, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Mais non, mais c'est vrai, on ne sait pas si c'est positif
ou négatif.
Si c'est négatif.
On ne sait même pas si c'est positif.
Non, on est encore en train de discuter, savoir si ça favorise la croissance ou si c'est un stress pour la plante. Il semblerait que ce soit les deux. C'est peut-être pas incompatible d'ailleurs. Mais moi, ce que j'adore, c'est finalement qu'on regarde différemment le vivant depuis qu'on s'intéresse à la fois à la recherche de la vie dans l'univers, mais aussi en découvrant que la vie la plus extraordinaire, la plus folle, la plus belle, elle est sur la Terre. Et il suffit de regarder autour de nous, finalement, comment les plantes, comment
pourquoi
les animaux...
Michel Serrault dans la cage au vol, tout à coup. cool. Là, on est monté très très haut dans les aigus. C'est l'excitation. C'est l'excitation syrienne.
On est en train de découvrir, et je pense que c'est une révolution, qu'aujourd'hui, la Terre est au centre de nos intérêts et que la vie, à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit végétal, animal, nous sommes des animaux, ou tout ce que vous voulez, microbien, a inventé des choses extraordinaires et a une perception de la nature que nous n'avons pas encore. Donc on doit s'inspirer de ces plantes, et je dirais, si c'est la Lune qui nous le dit, alors c'est formidable parce que c'est poétique en plus.
Est-ce que c'est vrai qu'on peut on doit leur parler ?
Aux plantes ?
Ouais. Est-ce qu'elles s'expriment ? Vous disiez qu'elles s'exprimaient avec la Lune autrement. Est-ce que...
Alors, certains le pensent, mais là, encore une fois, c'est...
On ne sait pas.
Non, parce qu'en fait, c'est très difficile de...
De parler avec une plante, oui, ça c'est vrai. Il y a des éléments de conversation, la plante n'a pas beaucoup de répondances.
Mais tous les gens qui ont la main verte vous diront qu'il faut leur parler.
Et tout le monde dit ça, oui.
Et que c'est vrai...
Et même aux arbres.
Aux arbres, aux rosiers.
Bon, alors on va vous laisser, et les gens en blanc vont venir vous chercher. Tout va bien se passer.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et oui, tous les jours, nous sommes avec Mathieu Noël de 16h à 18h sur Europe 1 avec à ses côtés Eva Rock et un invité d'honneur. Mercredi, c'était l'animatrice Alessandra Sublet qu'il connaît plutôt bien, Mathieu Noël.
Je suis très ému aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est une invitée pas vraiment comme les autres qui va nous accompagner durant ces deux heures. Une grande animatrice qui a ses tabous sur France 5 m'a tout appris, notamment comment démarrer une émission, son secret, une phrase choc et surtout, grammaticalement irréprochable.
Pascal Obispo, bienvenue. Tant mieux qu'on se retrouve pour un bon dîner.
Bonjour Alessandra Sublet, moi ravi d'avoir vous pour bonne émission.
Moi ravi d'être avec vous, au grand maître de la radio.
Bonjour. Ça fait du bien de se retrouver. Hein.
Oui, mais vous me manquez. Hein.
Maman aussi, vous me manquez. Alors, je suis content de vous avoir cet après-midi. Vous présentez chaque soir C'est Cantelou sur TF1. Et à partir du 31 janvier, on va vous retrouver aux commandes d'une émission qui vous ressemble, que seul vous pouviez présenter, Star à nu. Avec Chris Marquez, vous allez tout simplement et sans chichi mettre à poil les vedettes. C'est ça le concept. Hein.
Oui, enfin, si vous réduisez le concept à ça, les gens vont pas comprendre. L'idée derrière, c'est de se faire sensibiliser du cancer de la prostate et du testicule pour les hommes et du cancer du sein pour les femmes.
Il y a quand même, voilà, effectivement, une mission.
On n'a pas décidé de se mettre à poil comme ça.
Mais je ne sais pas, je vous connais un peu dans la vie, ça aurait été possible. C'est donc Alessandra Sublet qui nous accompagne cet après-midi. Alessandra, à qui j'ai envie de dire...
Toi non plus, tu n'as pas changé.
C'est émouvant de revenir à Europe 1, Alessandra.
Ah oui, mais moi j'ai passé tellement de bons moments ici. En fait, c'est pas tant la radio, c'est les gens. Non mais c'est vrai honnêtement, et d'ailleurs je prendrais, c'est la même chose pour les chaînes, c'est qu'ici j'ai rencontré que des gens super chouettes et on a ri tous les jours. Donc quand on était en hebdo pour Petit Dimanche entre amis, c'était une fois par semaine, et après c'est fou, ils nous ont donné les après-midi tous les jours.
J'ai réécouté, donc, je peux vous dire effectivement, fou est le mot qui correspond.
On n'avait aucune conscience, mais on a vraiment ri, c'est ce qu'il en reste.
On peut citer Guy Carallier, Jérémy Michalak, Julia Vignali, Valérie Beck, Jérôme Béglé entre autres. Alban Ivanov, c'est vrai. On voit la carrière qu'il fait aujourd'hui. Une émission qui n'avait pas rencontré le succès qu'elle méritait, La Cour des Grands, et qui a légué pourtant à la postérité musicale ceci.
La Cour des Grands, c'est un jour de Noël. Des cris de joie, des cadeaux.
C'est qui avait écrit les paroles?
C'est Guy Carlier qui avait écrit les paroles de cette chanson. Et très franchement, je veux dire, j'ai toujours eu ce métier de débriefer les émissions auxquelles je participais. Jamais ça n'a été aussi facile d'arriver le vendredi et de reprendre vos conneries de la semaine. Il y avait une montagne de matière et de moments qui étaient fabuleux.
En vous écoutant ici, maintenant, je pourrais faire un débrief chaque jour aussi. Hein. Il y a du très lourd, Mathieu.
Oui,
je vous entends vous tromper sur des prénoms et des noms d'invités. Je vous entends faire des bourdes énormes.
Je me sublétise totalement.
Le quotidien, Mathieu.
Effectivement. Eh bien, nous allons y revenir. Vous ne croyez pas si bien dire. Pour l'instant, Alessandra, on parle de votre actualité, votre émission vendredi à 21h05 sur TF1. Star à nu, deux soirées, une avec des hommes, une autre avec des femmes. C'est dommage d'ailleurs de ne pas les avoir mélangées. C'est juste mon avis. Lors de la première soirée, sept personnalités, donc sept hommes, ont accepté de se déshabiller sur la scène du Lido. Non pas parce qu'ils ont des tendances exhibitionnistes, mais pour la bonne cause, on l'a dit. Alors, en quoi voir Bruno Guillon à poil peut inciter les gens à se faire dépister?
Vous l'auriez fait, vous?
Non.
Voilà. Donc la réponse est là. C'est qu'en fait, ils ont eu le courage de se mettre à nu pour encourager les gens à se faire contrôler et à être sensibilisés au cancer de la prostate et du testicule. Je ne vais pas vous donner des chiffres, parce que c'est un peu compliqué, puis on va se faire rentrer dedans par tous les médecins de France et de Navarre. Mais en l'occurrence, en fait, les trentenaires, par exemple, sont concernés par le cancer du testicule. Aller juste se faire palper, je n'en reviens pas de parler de ça, mais de se faire palper les testicules, comme nous, on peut en fait se palper les seins pour les femmes. Et puis parce que voilà, c'est des cancers terribles qui touchent plus de gens qu'on ne le pense.
C'est adapté d'un format anglais, hein, ouais. ça a déjà été fait en Angleterre, ça, et c'est Arthur qui a décidé, en le voyant, de ouais. l'adapter.
Exactement.
Ça paraît compliqué de convaincre les stars de faire ça, très franchement, hein, même si c'est pour la bonne cause.
Non, mais je vous confirme, ouais.
Si
bien sûr.
Public, d'ailleurs, c'est,
oui, mais on l'est tous un peu, c'est en prime time, et les garçons, ils sont nus-nus.
Ah oui, ils sont nus-nus, parce que vous n'êtes pas nus-nus.
Non, nous, on n'a que le haut nu-nu. On n'a pas le bas nunu, voyez. Mais c'est surtout qu'en fait, évidemment sur TF1 ce sera flouté, mais il y avait du public, il y avait 1200 personnes au Lido.
C'est ça, ouais.
Donc les gars, ils y sont allés. Ah, et oui. Ils ont appris la choré, et ils ont vraiment donné de leur personne. On leur a fait faire par exemple une séance photo nue avec un super photographe. Quand il a fallu enlever le bas, bon, moi je suis partie, même s'il y avait du matos. Mais voilà, il fallait le faire, quoi. Donc non, ils sont très très courageux et ils sont tous touchés de près par cette cause.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Qui est pour vous, Alessandra Sublet ? Moi j'ai mon idée, mais vous ? On est allé vous poser la question. Voici, non pas notre micro-trottoir, toujours monté pour faire plaisir à l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est la même chose, sauf qu'on n'a pas coupé les vacheries.
Alessandra Sublet.
Et cheveux courts, voilà, c'est une jolie femme.
Alessandra Sublet.
Surtout connue pour ses gaffes, je crois.
Quand elle présente, on sait que c'est elle qui présente, parce qu'elle a toujours sa façon de présenter. Et,
pour des références culturelles aussi hasardeuses parfois.
Elle présente toujours avec animosité et toujours elle est très joyeuse et contente quand elle présente une émission.
Non, sinon elle est charmante, absolument charmante. Une pub aussi pour le Spritz, je crois.
C'est ce qu'elle veut, elle est déterminée, elle est, voilà, elle est ferme.
Je trouve qu'elle est très belle. Belle comme une femme une femme belle.
Très naturelle. Je la trouve drôle sans trop en faire.
Moi, j'aime pas trop. Mais je la trouve un peu prétentieuse.
Elle est énergique. Et voilà quoi, elle est sympathique.
Femme des temps modernes, totalement. Un petit peu délurée probablement.
J'ai 12 ans. Oui, elle est jolie. Si, je suis pas amoureux d'elle. C'est pas forcément que quand une fille est jolie, on est amoureux d'elle.
Moi, je l'aime beaucoup.
Ah, voilà. Il veut pas forcément vous pécho, mais il vous aime bien.
Mais moi, depuis Massinger, je suis devenue Lidl de la cour de récré de mes enfants qui ont 5 et 7 ans.
Hein. Eh ben, c'est sûr, c'est une émission qui a très bien marché sur les enfants.
Ah ouais, et c'est drôle.
Un petit peu déluré, nous disait-on. Alors, les gars, c'est un euphémisme. Moi qui connais dans la vie Alessandra, je peux vous dire, et le certifier, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le personnage que vous êtes à l'antenne et le personnage, parce que vous êtes un personnage aussi dans la vie. Mais c'est vrai parce que les gens peuvent se dire, peut-être qu'à la télé, elle en rajoute, machin. Vous êtes exactement pareil dans la vie.
Non, je ne change pas. Mais d'ailleurs, ça me fait plaisir, c'est mes amis d'enfance qui me disent ça parce que je les ai gardés, j'ai beaucoup de chance. Et ils me disent, c'est la même. Tu es la même. Et bien ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire.
Elle n'a pas changé depuis l'époque où on bossait ensemble, comme dirait Edouard Baird.
C'est ça. Je ne vois pas pourquoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça.
Alessandra Sublet passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et avec à présent Axel de Tarlé pour parler de la baisse des ventes de vin. C'était ce lundi sur Europe 1 en présence de l'écrivain Daniel Pénac dont le dernier roman a pour titre « La loi du rêveur ».
Après la bérésina journalistique qu'il a vécue vendredi face à la pourtant conciliante Isabelle Carré, dont la politesse n'a pas suffi à masquer la déception après la chronique d'Axel sur les cantines Sodexo. Autant vous dire qu'au moment du vote final, vers 18h, l'affaire a été vite pliée, même si avec sa gentillesse légendaire, Isabelle a tenté de voir le bon côté des choses.
Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme.
Axel, c'était pour vous ?
Un petit peu, je dois dire.
Allez Axel, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Vous avez opté pour un sujet bien racoleur, le pinard. On vous écoute.
Le pinard qu'on boit de moins en moins.
Oui, parce qu'il y a... visiblement pas fou.
Bah écoutez, je veux voir pourquoi on en boit moins. Non, les chiffres sont tombés pour le Bordeaux. C'est moins 12% pour les ventes. Et alors surtout, c'est une catastrophe.
Axel, où ? On en boit moins où ? En France ?
Dans le monde, Bordeaux se vend 12% de moins. Mais vous avez raison, la moitié du Bordeaux est exportée. Et alors c'est une catastrophe en ce moment aux États-Unis. Vous savez que depuis la mi-octobre, Donald Trump a imposé une taxe de 25% sur les vins en provenance de France. Le Bordeaux aux États-Unis a fait moins 46%.
Bah, logiquement, oui.
Logiquement. Mais il y a un malaise plus profond, et c'est ça le sel de cette chronique, c'est que le vin français a de moins en moins la cote, y compris en France. Alors, vous savez que ça, c'est une bonne chose. Nous avons divisé par deux notre consommation d'alcool au cours de ces 50 dernières années.
Oui, ça dépend si on l'a remplacé par du vin italien, par exemple.
On consomme de moins en moins de vin en général, parce qu'en fait, le vin, et dans le monde entier, c'était vrai, a longtemps été porté par une espèce de mystification. Vous savez, le vin, c'est bon pour le cœur. Et donc, oui. On a beaucoup dit ça, il y a eu des études qui l'ont affirmé. Donc, ça a été l'un des vecteurs pour promouvoir les ventes aux États-Unis, arrêter de boire de la bière. Bon, ce discours, maintenant, est totalement passé de mode. On dit que le vin, vous savez, pour les femmes enceintes, on prône l'abstinence. Nous sommes au mois de janvier, maintenant, c'est la mode du dry January. Et alors, il y a un autre problème pour le vin rouge, pour le Bordeaux, qui est très fort en rouge, c'est que, du coup, on ne boit plus de vin à midi. Or, le rouge se boit beaucoup à table, alors que le blanc se boit plus à l'apéro. L'apéro est encore un moment où on boit de l'alcool, mais à table, dans les restaurants, ben, les restaurateurs vous disent qu'ils vendent de moins en moins de bouteilles de vin rouge. Donc, c'est un problème. Et j'en arrive au deuxième point, qui est un problème marketing du vin. Alors, il y a une étude qui vient d'être publiée sur le vin français, son image. Il a toujours une excellente image, le vin français. Le meilleur vin au monde, si on veut se faire plaisir, si un Chinois marie, milliardaire chinois, marie sa fille.
Mais c'est un vin de grande occasion.
Et voilà. C'est un vin de grandes occasions et c'est un vin un peu vieillot. C'est un vin pour les parents. C'est pas du tout quelque chose de jeune, si vous voulez. Et vous avez ça, c'est très vrai pour le champagne. Les jeunes, et le champagne est totalement bousculé, ses ventes baissent également dans le monde entier par le Prosecco. Les jeunes, ils boivent plus. Ah oui. Le Prosecco est bien plus à la mode et bien plus pétillant que le champagne, qui est un peu quelque chose de statutaire.
Je vous confirme que je suis vieux. Hein.
Quand on marie ses enfants, voilà, on va faire, ou à Noël, on va faire péter la bouteille. Ou pour les 50 ans d'anniversaire de mariage avec madame, on fait péter la bouteille de champagne. Mais quand on est jeune entre potes, eh ben, je peux vous dire, on ne boit pas de champagne. D'où d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette campagne de publicité des vignerons champenois qui essayent de désacraliser, vous ne les avez pas vus, ces pubs, ils essayent de désacraliser, de banaliser la consommation de champagne. Alors c'est un peu ridicule, on voit dans la cuisine le type avec sa bouteille de champagne, puis à côté il y a un œuf dur, ou bien il est en train de manger une sardine.
J'ai pas vu ça, c'est placardé sur...
Oui, dans les magazines on en voit. Et alors autre chose qu'ils essayent, ça c'est un peu limite, ils disent, mais parce que le problème du champagne c'est qu'on le boit à deux, on le partage. Non, n'ayez pas peur de le boire tout seul, donc on monte...
N'ayez pas peur, ayez confiance.
Non. Pour encourager la consommation solitaire.
Mais que dit la loi 20, tout ça.
Ah bah ça, on a le droit, écoutez, de promouvoir. En tous les cas, non, mais cette histoire de... C'est un vrai souci pour la filière viticole française. Et pour... Alors là, je suis plus sérieux, je vais terminer par une touche un peu plus sérieuse pour nos exportations. Vous savez que la France a deux grands soldes positifs en exportation. Ce sont les ventes d'avions, ça cartonne, et les ventes de vin. 10 milliards d'excédents commerciaux. Donc, il y a un peu péril dans la demeure, voilà, pour nos vins rouges et nos champagnes.
Il y a les missiles aussi. Voilà, on devrait leur envoyer du champagne à la place des missiles.
Alors, tiens, remettez-vous au champagne et buvez le seul, voilà. Sinon c'est le missile.
On les bombarde avec du champagne.
Daniel Pénac, est-ce que vous soutenez les ventes de vin rouge, ou est-ce que vous faites partie de ces gens?
Je viens de faire ma proposition que vous ne semblez pas prendre très au sérieux.
Non, c'est vrai que là j'ai du mal à la
remplacer les missiles par des bouteilles de champagne.
C'est vrai que
et
ça
puis à chaque
beau.
Fois qu'on me parle de vin, ça, je me rappelle, vous connaissez plus, vous autres, Michel Simon qui chantait l'épinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, par où ce que ça passe. Il faut remettre cette chanson.
Mais vous ne croyez pas si bien dire, c'est une des chansons qu'on a déjà utilisées dans cette émission.
C'est
évidemment,
vrai.
Michel Simon, nous ne l'avons pas oublié. Merci beaucoup, Axel de Tarles.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui, au-delà de sa dimension potage destinée à égayer votre fin d'après-midi, s'intéresse véritablement à l'invité. Ici, on lit les livres, on assiste aux pièces de théâtre, on voit les films de nos invités, qui plus est, évidemment, si on est vice-chef adjoint du service culture, comme Sandrine Bonner avait pu le constater lundi dernier face à l'inénarrable Mathieu Charrier. Tu l'as vu le film, Mathieu, ou pas?
Quel film?
Le film de Sandrine.
Non, je crois pas.
Alors aujourd'hui, je vous rassure, Samuel Le Bihan, non, Charrier n'a pas lu votre livre.
D'ailleurs, 10 jours avant la sortie.
Il ne savait même pas que vous aviez publié un livre, hein. Il est resté au Pacte des Loups, lui. Mais moi, je l'ai lu. Il s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne », l'histoire fortement inspirée quand même de votre vie, puisque vous avez, vous aussi, un enfant autiste, une fille. Vous avez parlé d'elle l'autre jour sur Instagram, ça vous arrive de temps en temps. Et le message là était vraiment très très mignon, très touchant. C'était une photo au ski. Et vous disiez, comment imaginer qu'un jour cette petite fille chausserait des skis, elle pour qui monter un escalier était une opération compliqués. Je sais que pour toi, chaque apprentissage est bien plus difficile et pourtant, tu n'hésites jamais. C'est des moments qui doivent être magiques quand on vit une situation compliquée comme ça et qu'on se retrouve au ski avec sa fille.
C'est surtout, on démarre de tellement loin et on se rend compte que les méthodes éducatives, là, ça a été ce qu'on appelle la méthode ABA, c'est une méthode comportementaliste, qui ont été assez décriés en France pendant très longtemps et qui aujourd'hui commencent à être intégrés et qui lui ont permis de complètement changer. Ça a été miraculeux. Et je suis toujours extrêmement impressionné. Alors, pour elle, c'est plus difficile. Elle doit tout apprendre, même des émotions du visage. Elle ne sait pas les reconnaître et elle a appris à reconnaître un visage triste, un visage gay. Mais à force de je récompense tous ses efforts, je célèbre toutes ses victoires et je l'encourage tout le temps lorsqu'elle a du mal. Et on franchit des barrières insensées, quoi. Et donc aujourd'hui, elle peut faire du ski. C'est inimaginable, parce que le cerveau, il dirige le corps aussi. Donc évidemment, l'équilibre, elle peut pas faire de trottinette, par exemple. Mais peut-être que maintenant, elle pourrait être capable d'en faire. Mais c'est un objet, donc elle voyait d'autres enfants jouer avec. Et elle s'y intéressait, mais arriver à poser une jambe et pousser avec l'autre, c'est déjà une opération assez complexe. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses beaucoup plus... c'est extrêmement émouvant pour moi.
Et est-ce que les choses sont acquises? C'est la question qu'on se pose aussi quand on a un enfant autiste. Est-ce qu'on arrive à acquérir des compétences on les conserve ensuite? Ou est-ce qu'on peut désapprendre aussi?
Oui, on peut désapprendre. Mais
comme nous, en fait.
Oui, comme nous, mais elle a besoin d'être stimulée tout le temps.
En permanence.
Tout le temps, et aujourd'hui, elle demande d'être stimulée. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça devient un jeu. Et puis, il faut y créer aussi des bons souvenirs. Il faut qu'émotionnellement, on ait envie d'y retourner. Et donc, il faut créer un contexte.
Et là, c'était bien le ski. Vous étiez content? Elle était contente?
Mais c'était génial. C'était vraiment génial. Et je me dis que voilà, un jour, je vais pouvoir partager ça avec elle.
Vous pouvez nous rappeler quel âge elle a, votre fille?
Maintenant, elle a 8 ans.
8 ans.
Ouais.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage, c'est comme un camembert au lait cru. C'est sur la fin que c'est le meilleur. Winston Churchill.
Ah, c'est beau.
Non, c'est juste con, Eva. Mais en revanche, la grande force de notre émission, c'est, je crois, on peut le dire, l'état dans lequel ressortent nos invités vedettes. Alors évidemment, on a un secret qu'on ne révélera pas, même si de Cadmerade à Daniel Pennac hier, quelques indices permettent de le deviner.
Décalé Qatar, décalé Qatar.
Ah, c'est de la vinasse.
Décalé Qatar.
Ça fait du bien.
Ça va le bien. Je vous sers un petit jus de pomme, le même que Cad et Daniel.
Plaisir.
Alors, on parle de vos multiples activités, Samuel Lebihan. On va parler de la série Alex Hugo
sur France 2 depuis 5 saisons. Là.
Oui, Eva, vous voulez un petit bisou de camembert?
Non, je veux pas un bisou de camembert. Je veux surtout que vous éloigniez de moi.
Parlez-nous, Eva, de cette série excellente dont on parlait déjà un peu tout à l'heure.
Samuel Lebihan, vous êtes le héros de la série Alex Hugo. C'est sur France 2, ça fait 5 saisons déjà. Est-ce que la 6e a été tournée et bientôt programmée?
Ouais. C'est diffusé en septembre, chaque année, donc un an après.
Mais alors vous, le breton, qui est adorateur de la mer, vous êtes adapté à la montagne facilement? Parce qu'il faut rappeler, vous jouez le rôle d'un flic marseillais qui s'est un peu exilé dans les montagnes. Vous êtes vraiment dans un décor naturel au milieu des montagnes.
Complètement, on est vraiment projeté dans une nature extrêmement forte. Moi, je suis comme le personnage, j'ai été catapulté dans cette région et j'ai appris à la découvrir et je me suis vraiment passionné parce que je connaissais pas la montagne l'été. Je me suis mis à faire de la randonnée, de l'escalade, du vélo. Maintenant, je me fais quelques cols mythiques du Tour de France. Il y a énormément d'activités, c'est agréable, c'est doux, les gens sont super sympas. C'est un moment de c'est un peu des vacances, hein. On n'est pas vraiment en train de travailler, quoi.
Vous êtes payé quand même.
Oui.
Mais vous allez leur faire des saisons gratis.
Un tournage avec Lionel Astier, c'est vrai que ça doit ressembler plutôt aux vacances.
Il est super, ouais. Il est très drôle et très pro.
Il paraît que vous emmenez souvent votre fille, d'ailleurs, sur les tournages.
Oui, elle était à l'école, là-bas. Moi, j'organise, parce qu'elle vit avec moi. Donc, du coup, je suis obligé d'anticiper. Mais il y a les équipes de tournage qui m'aident. C'est la régie, la production, m'aident à organiser l'inscription à l'école. Donc, j'avais engagé pour trouver la VS, ensuite trouver les babysitters. Mais il faut dire, à la montagne, ou ailleurs, mais j'ai trouvé des gens vraiment super, qui sont très investis, qui prennent le temps. C'est vrai qu'à Paris, on est dans un rythme comme ça, où on n'apprécie plus les choses. Et tous les gens qui entouraient ma fille étaient vraiment incroyablement investis et attentifs, et ils l'ont vraiment aidé à progresser.
Une question que j'aimerais vous poser là-dessus, pour revenir donc à ce livre, Un bonheur que je ne souhaite à personne. On dit souvent que les enfants autistes, plus que les autres enfants, ont besoin de repères, d'un cadre qui est toujours le même. C'est pas ce que vous faites avec votre fille, et ça fonctionne, mais je veux dire,
j'ai pas le choix, c'est-à-dire que j'ai décidé que son repère, ce serait moi. Et autour, le monde bouge.
Peu importe,
on a beaucoup voyagé, on a fait 5 pays, je suis sur les tournages, enfin, je lui ai demandé beaucoup de s'adapter, et à chaque fois, j'ai vraiment, alors ça me demande plus de temps, plus d'attention, et puis trouver des équipes solides, mais ça fonctionne, c'est une question d'organisation, ça fonctionne, et elle, du coup, elle a développé énormément de facultés d'adaptation, d'interaction sociale, puisqu'elle est avec des personnes différentes. Et finalement, ça lui a permis d'énormément s'épanouir. Et j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, c'est les enfants autistes qui... Ben, les autistes ont besoin de ce repère. Mais c'est pas forcément ce qu'ils veulent qui est le meilleur pour eux. Mmh. En fait, les habituer aussi à un certain changement, alors ça crée des angoisses, ça crée des paniques,
mais
doucement, ça les aide aussi à apprivoiser l'environnement. Donc ça l'a beaucoup aidé, étonnamment. Maintenant, j'essaye vraiment de stabiliser beaucoup plus, hein, parce que c'était assez exceptionnel. Pendant 2 ans, ça a été assez mouvementé, mais c'était super. Et puis aujourd'hui, je pense que j'ai plutôt envie de travailler sur stabiliser, puis vraiment mettre des objectifs assez clairs sur pour elle, sur des choses qui... Ben voilà, elle est à l'école, elle est en CE2, elle suit le niveau scolaire, mais ça demande un petit peu plus d'encadrement. Et ça, j'ai vraiment envie qu'on passe pas à côté, quoi.
Il y a un cliché aussi que vous dénoncez, c'est quand les gens qui connaissent pas grand-chose à l'autisme, on est nombreux à pas y connaître grand-chose, c'est de se dire, d'associer autisme au syndrome Asperger. C'est-à-dire, on se dit, c'est forcément un génie, en fait. Donc, t'as de la chance.
Il faut dire qu'il y a très peu d'enfants
autistes qui sont des surdoués, en fait. C'est plutôt...
Bien sûr, ouais, c'est plutôt le contraire. La plupart du temps, c'est souvent, il y a un retard mental, ou alors un retard d'apprentissage, mais évidemment, on a une espèce de cliché, et puis ça arrive, hein. Il y a aussi des enfants qui sont extrêmement spécialisés sur des domaines, qui vont mémoriser l'heure des trains, par exemple, mais ça sert à rien. Dans notre vie, dans notre société, c'est absolument pas applicable. C'est le mystère du cerveau, c'est dingue à quel point on voit, par exemple, ma fille a quand même une particularité, c'est qu'elle a une mémoire insensée, la mémoire des prénoms. Et donc, elle s'amusait, comme un jeu, à apprendre tous les prénoms, mais même dans la rue, c'est-à-dire qu'on est à la boulangerie, on attend, puis elle demandait le prénom des gens. Et des fois, on est dans la rue, on marchait, et elle disait bonjour Stéphane. Et donc, les gens, je ne se rappelaient plus de cette petite
fille.
Et ils se retournaient, ils ne comprenaient pas. Et elle avait compris que, je pense, elle en jouait un petit peu, parce qu'elle a compris qu'il y avait une faculté là. Mais bon, voilà, ça. Je me dis, mais le cerveau est assez incroyable. C'est-à-dire, elle a des accès directs à des parties de son cerveau qui sont de la mémoire sur des choses complètement abstraites, et puis d'autres où la porte est fermée.
Et il y a un autre truc sur lequel je voulais juste revenir en deux mots, c'est l'humour. Vous lui inculquez le sens de l'humour, ça peut être aussi...
Oui, j'ai fait des blagues tout le temps, donc c'est un peu pour qu'elle apprenne le second degré, parce que les autistes sont vraiment très
premier degré. D'accord.
Et donc, alors en même temps, ils mentent jamais. C'est super. et je vais apprendre... Elle est un peu filou. Elle adore ça, elle comprend. Alors du coup, maintenant, elle commence à me le faire aussi.
Déstabilisant.
Faut que je fasse gaffe, parce qu'elle va apprendre le mensonge après.
Alors, depuis quelques minutes, Samuel, je vous vois un peu tiqué. Vous vous dites, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de camembert dans le studio? Eh bien, c'est Olivier Pouls, le gargantua belge. Un individu hors norme qui n'a jamais compris pourquoi le film La Grande Bouffe avait fait autant polémique, lui dont c'est le régime quotidien. Un aventurier du gras qui ne doit sa survie qu'à une hygiène de vie extrêmement rigoureuse. Chaque matin, au réveil,
petite goutte de vin blanc, bien sûr, petite goutte de schnapps.
Bien évidemment. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Et c'est vrai que ça hume bon dans le studio.
Oui, c'est vrai, mais votre camembert n'est pas assez fait. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure.
Ben vous savez, bon. C'est comme ça qu'on le mange là-bas. Le camembert vraiment fait, c'est plutôt une mode parisienne. Vous savez pourquoi?
Ah bon?
Mais tout simplement parce que c'était le temps que mettait le camembert pour arriver de sa région de production à Paris. Entre-temps, il devenait fait. Et donc, on avait plutôt l'habitude de le manger coulant ici, alors que sur place, on le mange plus frais. Bon, depuis, chacun sa chapelle.
Fier d'être parisien.
Voilà. Je suis d'accord avec vous.
Ouais,
il n'est pas encore tout à fait bien fait. Alors, Samuel, bon, on a beaucoup parlé de la Bretagne, mais c'est bien en Normandie que vous êtes né quand même.
Absolument, excusez-moi.
Ah, ouais.
Mais là, il est très bon ce camembert.
Vous êtes né au pays du camembert. Et donc, je n'ai pas résisté.
Orange dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Voilà, ben, j'ai pas résisté au plaisir de vous proposer une recette originale à base de camembert. Et quand on parle de camembert, il n'y en a qu'un, l'unique, le vrai, le camembert d'appellation d'origine protégée.
Au lait cru. Évidemment.
Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que camembert est une marque aujourd'hui. Ça n'a pas été déposé au départ. Ce qui fait que l'appellation simplement camembert, elle est mondiale. On fait du camembert en Italie, aux États-Unis, n'importe où. On a le droit d'appeler ça camembert. Donc, pour avoir vraiment la certitude d'avoir un produit de qualité, on prend un camembert d'appellation d'origine protégée. On va aussi prendre quelques pommes, tant qu'à faire,
5 fruits et légumes par jour.
Évidemment, tant qu'être en Normandie, des pommes à compote, donc de la rainette ou de la boscope. Et puis, alors là, c'est pas tout à fait normand, mais c'est pas grave, des feuilles de briques. Et on va faire des briques camembert pommes.
Waouh, super.
Hyper facile à faire.
Ouais. Comme dirait la momie. Voilà, ça a l'air de lui plaire.
Oui, ça a l'air de lui plaire. Et je ne sais pas si on mangeait ça à l'époque, mais en tout cas, il y a quelques petites idées de cette cuisine méditerranéenne.
Les camemberts en Égypte en 3000 avant Jésus-Christ. Oui. C'était bon en histoire. Enchaîne.
Donc, de jolis morceaux de camembert qu'on va poser sur la feuille de brique, des petits dés de pommes. On va refermer notre feuille de brique en triangle. Alors, il y a une petite astuce, un petit tour de main à prendre, mais c'est assez facile. On va badigeonner avec un peu d'huile, permettre d'obtenir le fameux croustillant à l'extérieur et moelleux dedans, bien sûr. Et puis, on va poser ces petits triangles de briques fourrées camembert-pommes dans un four chaleur tournante, mon cher Mathieu.
Toujours chaleur tournante.
À 180 degrés pendant une petite dizaine de minutes. Et donc, le camembert, évidemment, à l'intérieur va fondre. La pomme, elle va cuire, elle va compoter. La brique, elle va nous retenir tout ça en apportant le croquant. Mmh. Et au moment où vous coupez la puis vous avez les saveurs de pommes.
Une chronique à bruitage.
Mais vos pommes, cool. En 10 minutes, elles font de la compote.
Vous les coupez en
petits
dés.
Ah oui.
Elles vont cuire, mais elles ne seront pas complètement compotées. Elles gardent un petit peu de texture quand même.
Mais je m'en fous, j'en mangerai pas. Mais
ce mélange.
Mais Eva, n'en dégoûtez pas les autres si vous n'aimez pas le fromage. Ici, on aime le fromage.
Je souffre depuis 10 minutes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point.
Bouchez-vous les oreilles.
Bon, écoutez, tournez de camembert pour ceux qui le veulent.
Tournez pour tout le monde.
On accompagne ça, évidemment.
Avec quoi?
D'une belle bouteille de cidre.
Ah,
évidemment. Ouais. L'association camembert-cidre, c'est une association majeure.
Le monde bouge, mais pas lui. Merci Olivier Pouls, qu'on trouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Elle a récemment sorti le 4e tome de son roman jeunesse « Le monde de Lucrèce » paru chez Gallimard et illustré par Catel. C'est Anne Goscinny. Elle est venue nous en parler cette semaine sur Europe 1 au micro de Mathieu Noël. Mais l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition et c'est le moment de découvrir le sujet de Nicolas Carreau.
Nicolas, ne lui faites pas le coup du fan d'Astérix, je lui ai déjà fait.
Mais non, c'est une coïncidence en plus. Mais je voulais parler de la comtesse de Ségur. Et il se trouve, on l'a dit tout à l'heure, qu'Anne Goscinny est une grande fan de la comtesse de Ségur.
Quelle heureuse coïncidence!
Parce que tout le monde a lu la comtesse de Ségur.
Oui, sauf
petit,
moi.
Petit.
Oui, je l'avoue, je ne l'ai pas lu.
Oui, enfin, presque tout le monde. Mais il y en a qui continuent à le lire passé 30 ans. Et donc, c'est le cas d'Anne Goscinny, mais. Alors, elle va savoir tout ce que je vais dire là, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la vie elle-même de la comtesse de Ségur, qui est aussi incroyable que ses romans, voire plus. D'abord, elle s'appelle pas la comtesse de Ségur, ça c'est son nom d'épouse, elle s'appelle Sophie Rostopchine. Elle vivait en Russie dans une très grande famille. Son père, c'était Fiodor Rostopchine. Mathieu, ça vous dit quelque chose? C'était le gouverneur général de Moscou.
Évidemment, bien avant. Jusqu'après Piotr Alexeïevitch, qui était juste avant lui.
En 1812, l'armée de Napoléon attaque, ils arrivent à Moscou et Rostopchine décide de mettre le feu à Moscou. Et donc, c'est l'incendie de Moscou. Toute la ville brûle pour chasser Napoléon et ça va fonctionner d'ailleurs. Sauf qu'ensuite, on lui a un peu reproché d'avoir
brûlé toutes les baraques,
même si on a viré les Français. Bon. Et donc, il a dû s'exiler, même si certains l'applaudissaient quand même. Mais bon, tout ça pour dire qu'il se retrouve à Paris et que c'est comme ça que Sophie, donc sa fille, se retrouve elle aussi à Paris. Elle rencontre Eugène de Ségur. Alors elle rencontre, c'est un peu arrangé, on est au 19e siècle. Au début, ça se passe bien. Elle est plutôt contente. Et puis, assez vite, elle se rend compte que non, ça ne va pas le faire du tout. Donc, il ne se voit quasiment jamais. En fait, lui est très volage. Et puis, ils sont mari et femme sur le papier, mais en fait, ils se connaissent très peu. Ils vont quand même avoir 8 enfants.
On peut ne pas très bien se connaître, et finalement, quand même, progrès pas mal. Hein, oui.
Et ce qui est terrible, c'est que la comtesse de Ségur, donc maintenant elle s'appelle la comtesse de Ségur, avait des problèmes dépressifs graves, et parfois ça se traduisait par des semaines entières de mutisme, et elle écrivait sur une ardoise pour communiquer avec sa famille, avec ses enfants, etc. Et puis donc, elle écrivait, et un jour, elle rencontre un type de Hachette, la maison d'édition.
Louis Hachette.
Et voilà, et qui lui propose de publier les nouveaux contes de fées, qui est un recueil en fait des contes qu'elle racontait à ses enfants. Mais elle avait 57 ans. Et donc son premier livre, qui est un succès immédiat, elle le publie à 57 ans seulement.
Et donc là, elle a des thunes, elle peut se casser.
Alors, bah, non, parce qu'elle ne touche pas les droits d'auteur directement, c'est son mari qui les touche.
Ah, une belle époque.
Quand il va mourir, elle va les récupérer.
Ouais. Pratique, ça.
Et alors, elle le publie dans une collection qui s'appelle la Bibliothèque des Chemins de Fer, qui est en fait l'ancêtre de la Bibliothèque Rose. En fait, dans la Bibliothèque des Chemins de Fer, il y avait une collection qui était en rose et qui est devenue ensuite la Bibliothèque Rose. La Bibliothèque des Chemins de Fer, parce que c'était vendu pour les voyageurs dans les gares. Et c'est comme ça que c'est né. Et c'est en fait une des premières, et c'est la plus célèbre de celle qui a lancé la Bibliothèque Rose, en fait, pour résumer. Et donc, on a eu Les Malheurs de Sophie ensuite, Les Petites Filles Modèles, Un Beau Petit Diable, Les Denigos, chacun a son préféré.
Je crois qu'Anne Goscinny a une préférence.
Voilà, Anne Goscinny, c'est lequel déjà ?
Oh, moi, je les aime tous, mais j'aime particulièrement Les Petites Filles Modèles et Les Vacances. Les Vacances suivent Les Petites Filles Modèles. Les Petites Filles Modèles suivent Les Malheurs de Sophie, parce que c'est assez chronologique, en fait.
Parce que les personnages reviennent.
Il faut dire que tous ces textes sont dédiés à chacun de ces petits-enfants.
Voilà. Voilà, chaque texte est,
pardonnez la question d'un néophyte pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas lu comme moi. On commence, en fait, c'est chronologique, donc il vaut mieux commencer par le premier, en fait.
On commence par ce qu'on veut.
Ah bon, ouais. Mais on va comprendre quand même.
Alors Mathieu, je vais vous faire une petite liste.
Merci, on va faire une petite liste. Heureusement que vous êtes là.
Ce qui est assez terrible, en revanche, c'est qu'on a souvent pensé, sans être tout à fait sûr encore, que Sophie, donc la comtesse de Ségur, a été maltraitée dans son enfance et que c'est ça ce qu'elle retranscrit aussi avec Sophie notamment et certains des enfants maltraités dans les livres. Et ça, c'est le côté un peu triste. Mais on n'est pas tout à fait sûr. C'est Nabokov qui a fait une partie de ses biographes et qui considérait que c'était sans doute ça. Elle est morte en 1874. Elle est inhumée à Pluneret dans le Morbihan. Et donc son épitaphe, on parlait de ses enfants, c'est « Dieu et mes enfants ».«
Dieu et mes enfants », ça résume tout.
Et elle est enterrée à côté de son fils Gaston.
Et
d'ailleurs, dans un de ses romans qui s'appelle Le Général d'Ourakine, on se demande dans quelle mesure elle n'a pas mis un peu son père en scène avec ce portrait de général complètement caractériel et violent.
Anne Goscinny, outre la littérature, on parlait de la comtesse de Ségur, la musique occupe aussi une grande place dans vos passions. Oui. Vous avez même d'ailleurs écrit une chanson pour Serge Reggiani et une autre avec Julien Doré pour Le Petit Nicolas. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Je suis passionnée par la chanson française, en particulier par une artiste qui s'appelle Anne Sylvestre, qu'on connaît vraiment pour son répertoire pour enfants, qui s'appelle Les Fabulettes, mais qui a pour adulte un répertoire engagé, féministe, remarquable. Et c'est la grande passion de ma vie. Il y a des gens, c'est les Rolling Stones. Moi, c'est Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois il nous semble.
C'est vrai qu'Anne Sylvestre, quand on écoute Les Fabulettes, il faut découvrir Anne Sylvestre, les chansons pour adultes, entre guillemets, les chansons engagées, voilà. Les belles chansons.
Bon, ben voilà. Moi, je rate pas un concert d'Anne Sylvestre. J'emmène mes enfants, et mieux que ça, quand ils étaient petits, ma seule façon de leur faire écouter les chansons un peu engagées d'Anne Sylvestre, c'était de les enfermer dans la voiture. je verrouillais les portes, on roulait un peu, et du coup, ils chantaient finalement des chansons d'Anne Sylvestre engagées.
On parlait de la maltraitance.
Oui, voilà.
Et finalement, aujourd'hui, ils ont une culture un peu hétéroclite. Et ils aiment ça, et voilà. Mais bon, je suis aussi dingue de Brassens, de Léo Ferré, de Jean Ferrat, des frères Jacques. J'adore les frères Jacques.
Ah, les frères Jacques.
Voilà, c'est
moi
tout
donc.
Ça. Voilà, c'est vrai que c'est avec la littérature, c'est ma grande passion.
Anne Goscinny, on est pas mal là.
On est vachement bien.
Vous restez avec nous.
Complètement.
Ça m'arrange.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Et on retrouve Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et l'invité de ce mercredi, l'animatrice Alessandra Sublet qui présente, vous le savez, chaque soir ses Canteloups sur TF1. Elle est aussi aux commandes des deux volets de l'émission Star à nu, le deuxième volet qui sera d'ailleurs diffusé le 7 février prochain.
Si je pouvais révéler le quart de ce qu'on a vécu dans les coulisses de C'est à vous sur France 5, sa carrière s'arrêterait net. Heureusement pour elle, je serais muet comme une tombe. Alessandra Sublet, l'invité de l'équipée sauvage cet après-midi. Qu'il est bon ensemble de feuilleter l'album Souvenir, car en radio aussi.
Chanson.
Ah bah si, c'est Diana Ross, The Boss, c'est pour vous. Vous avez été long. Quelle justesse, hein.
Mais
elle aurait pu être chanteuse.
Hein. Alors,
en radio aussi, on en a des souvenirs, ici même à Europe 1. Avec Eva Rock qui s'y présente dans Petit Dimanche entre amis, puis plus tard avec une émission qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait, La Cour des Grands. Pourtant, la direction faisait tout pour vous mettre en valeur, vraiment, notamment en termes de délocalisation. Souvenez-vous cette bande-annonce.
Vendredi sur Europe 1, Alessandra Sublet vous donne rendez-vous en direct et en public depuis Marseille.
À l'occasion de l'exposition Vie d'ordure.
Fallait-il y voir un message subliminal de la direction à l'époque ? On ne le saura jamais, de toute façon, il y a aujourd'hui prescription. En tout cas, vous étiez bien vendu. Ma chère Alessandra, on est vraiment ravis de passer l'après-midi avec vous. On se connaît bien. On se connaît très bien même. Sauf que vous avez tendance à raconter des balivernes parfois. Alors, on va mettre les choses au point. Voici un mini-test. Mytho ou pas mytho ? Vrai ou faux ? Vous avez failli participer au Morning Live sur M6 présenté par Michael Youn.
Oui, j'ai le casting.
Ah, vous étiez au casting ? Vous n'avez pas été prise ?
Non !
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, mais vous savez, c'est Arthur avait retrouvé dans Les Enfants de la télé à l'époque le casting. Et j'avais halluciné. Et c'est pour ça qu'on se connaît très bien avec Michael Youn. J'avais été trop hystérique.
ça m'étonne de vous.
Oui, c'est vrai. Mais ah, vraiment, un tantinet trop hystérique, j'avais 24 ans. Ouais.
Ah oui. Et, vrai ou faux, vous avez des poules dans votre jardin ?
Non.
Ah oui, un mytho exceptionnel celui-ci.
Ça a duré 6 mois votre histoire.
6 mois, vous avez fait croire que vous nourrissiez des poules. On a marché à fond.
J'avais pas rapporté des œufs en même temps en vous disant un jour que c'était.
Et vous aviez construit une cabane en bois pour les poules.
Je suis allé très loin.
Allé très loin.
Mais il faut aller très loin dans le mytho.
Ah oui.
Si vous voulez vraiment que les gens.
Comme disait Chirac, plus c'est gros, plus ça passe.
Exact.
Vous avez, vrai ou faux, un brevet de pilote d'avion et un permis moto ?
Ah non, attendez. Le permis moto, oui. Le brevet, je suis allé jusqu'à la moitié, j'ai jamais dit que je l'avais entièrement. Si, j'ai dû faire un mytho un jour. Non,
c'est ça le propre du vrai mytho, c'est qu'il ne se souvient plus. Non.
Elle voulait nous embarquer en avion en disant oui, c'est moi qui conduirai l'avion.
Oui, non, j'aurais pu avec l'instructeur.
On attendra la deuxième partie du brevet pour s'embarquer.
Mais permis moto, évidemment. Évidemment.
Et enfin, vrai ou faux, vous vous y connaissez en foot ou pas ?
Ah, bah oui, malheureusement.
Malheureusement.
Mais pourquoi ?
Mais parce que j'ai un papa qui a joué longtemps, j'ai mon cousin Willy Sagnol qui est en équipe de France. Ouais. En plus, j'ai fini avec un documentaire sur Netflix sur Griezmann. Bon, là, je crois que la boucle est bouclée.
Vous êtes calé. Alors, ça, Alessandra.
Mais j'adore, et je voudrais juste en profiter. J'adore le foot et je voulais en profiter pour saluer ma ville et mon équipe. Allez l'OL, vive Lyon et gros bisous à Jean-Michel Aulas.
Oh, bisous, bisous.
Oui, bisous.
Jean-Michel Aulas. Alors ça, Alessandra, c'était juste le pré-quiz.
Oui.
Maintenant, ça va se corser car là, on ne joue plus pur du beurre. On joue pour Anissé Mbida. Donc là, vraiment, l'enjeu est énorme. Je vous offre une nuit avec Anissé
Mbida. Il n'est pas au courant, oui.
Alors, ma femme non plus n'est pas au courant.
Non,
mais ça, votre femme, on a vu des vertes et des pas mûres dans cette émission. On se souvient de votre rencontre avec Sandrine Bonner, notamment, qu'on embrasse aussi. Bisous, bisous, Sandrine. Voici le quiz. Alessandra Sublet, pour le quiz qui vous oppose à Eva Rock, j'avais envie de rejouer à Mask Singer, mais sur Europe 1. Le principe est donc simple, ils vont venir chanter devant vous, il va falloir les reconnaître. Soyez bien attentive à la voix qui n'est pas trafiquée, car vous n'aurez pas de proposition de ma part, il faudra vraiment trouver. Attention, Eva, vous commencez. Il a un superbe masque de Cléa Mollet, il chante pour vous. Quand c'est fini, je veux votre proposition. Il faut répondre, Eva, parce qu'on a déjà écouté la chanson.
Patrick Sébastien.
Patrick Sébastien, c'est votre réponse. Nous allons voir maintenant qui se cache derrière Monsieur Cléa Mollet. Retirez votre masque.
Bonjour, c'est Renaud.
Mais non.
C'est Renaud qui chantait Une goutte judu, issu de son album Renaud Cante El Nord, sorti en 93. Comprenez, Renaud chante les plus belles chansons du nord de la France.
Non,
on l'avait oublié. Comment ça, je suis sérieux? Mais vous foutez
C'est génial.
Journaliste avant tout, madame.
Oui, c'est super. D'accord.
Alessandra, c'est à vous. Il a un superbe costume de sandwich au cornichon. Il chante pour vous, écoutez bien, et bonne chance. Moi, j'aurais trouvé.
Oui, moi aussi, je crois.
Attends, mais oui, c'est pas Jérôme ?
C'est Jérôme. Disons qu'il a fait un peu plus de tubes que c'est Jérôme. Oui.
Est-ce que je peux le dire ou pas ?
Oui,
non,
vas-y.
Comment ça, vous pouvez pas ?
Non, mais
je sais
pas la réponse, Alessandra.
Mais laissez-la réfléchir.
Non, mais moi, je peux pas trop réfléchir. J'ai pas assez de neurones pour ça. Eva !
Je me demande si c'est pas Jean-Jacques Goldman.
L'oreille absolue d'Eva a-t-elle parlé ? Monsieur Sandwich au cornichon, retirez votre masque.
Je suis d'accord.
Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Goldman.
C'était Jean-Jacques Goldman en 78 dans son groupe Taifeng.
Ouais.
Toute une époque. Ouais. Eva, c'est votre tour.
Oui.
Il a un superbe masque de Minitel.
Ah,
il chante.
Non, je déconne, allez-y.
Oh, mais quelle déconne. Mais c'est vraiment tout pour la déconne. C'est-à-dire que vraiment, mais alors une vanne toutes les 20 secondes comme ça, mais on se croirait dans un late show américain. Vous êtes formidable, Eva. Eva, il va falloir répondre à cette question. C'est monsieur Minitel. Il chante pour vous. Écoutez bien quand c'est fini. Je veux une proposition. J'ai envie de dire pas loin, Eva.
Eddie Mitchell ? Non.
Non, mais
pas Johnny.
Vous brûlez. On donne le point. Oh, je ne sais pas si on donne le
point.
Parce qu'on doit d'abord écouter la réponse.
Ah bah attends.
Salut tout le monde, c'est Johnny Hallyday.
C'était un des trois.
Et vous avez vu comme je fais bien les quiz, je donne les réponses avant avant le dénouement.
Fantastique.
Ça s'appelle le professionnalisme.
Je te demande comment vous avez atterri là.
Grâce grâce à vous. Alessandra, c'est à vous. Il a un très beau costume de trottinette électrique, on l'écoute chanter.
Allez, Anissa, aidez-moi. In my hometown, they try to drag me down. Bob Marley ? Non, il est français, forcément.
Mais si, on connaît.
Ah ouais, attends. Mais oui, attends. Mais oui, attends. Vas-y, dis-le moi parce que je l'ai. Non, mais Yannick Noah. Mais oui. Non, mais c'est vrai, on a eu le même au même moment. Yannick Noah. Mais faites la révélation, vous, dans le bon sens.
Trottinette, retirez votre masque.
Salut vous tous, c'est Yannick Noah.
Oui.
Qui chantait I Shot the Sheriff en 2012.
Mais cette voix, tu la reconnais un peu. Alors Anissa, est-ce qu'on peut s'arrêter sur votre réponse qui était
Eric Clapton et Bob Marley.
Mais bien sûr, parce que dans cette émission...
C'est quand même les deux interprètes d'I Shot the Sheriff.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais c'est drôle parce que vous êtes parti loin. Mais ça me fait penser que dans Masked Singer, c'est comme quand il proposait Omar Sy et Jean Dujardin, je l'ai regardé. Je...
Non, on les a pas eus.
Excusez-moi, voilà. Je pense qu'ils ont autre chose à foutre.
Voilà. Qui a remporté le quiz? C'est Alessandra, s'il vous plaît. On l'a fait à deux, mais elle est tellement gentille. Victoire.
Non, je l'aime.
Victoire contre Eva Rock dans un quiz. Une nouvelle ligne qu'Alessandra Sublet pourra ajouter fièrement à son CV, juste à côté de ce fameux 16 au bac de philo dont elle nous a parlé pendant 5 ans avant d'avouer un jour que c'était pipo.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et Emmanuel Dutheil qui s'est intéressé à la famille royale du Luxembourg. Où il nous parlera du comportement autoritaire de la grande duchesse Maria Theresa, mise en cause dans la presse. Et puis au menu également, Ève Roger qui nous parlera d'une tendance mode beauté. Regardez les poils repoussés. Alors à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
2 heures de découverte, de bonne humeur avec Mathieu Noël, bien sûr, Eva Rock, sa grande complice, nos journalistes compétiteurs dont l'objectif, je le rappelle, est d'obtenir un maximum de points grâce à leur meilleur sujet. Il leur faut aussi bien sûr convaincre, séduire l'invité dont le vote compte triple. Et parmi les invités cette semaine, il y avait l'animatrice Alessandra Sublet, la romancière Anne Goscinny, l'écrivain Daniel Pénac, la comédienne Isabelle Carré et Samuel Le Bihan, comédien mais aussi écrivain puisque son roman sur l'autisme est sorti en 2018 et aussi en poche. Ce mois-ci, il était l'invité de Mathieu Noël mardi dernier.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui fait l'unanimité, puisque demandez à n'importe quelle personne dans la rue, elle vous dira
« J'ai jamais entendu un truc aussi idiot !»
Bref, on passe un bon moment. Avec le très agréable Samuel Le Bihan, acteur devenu auteur pour exprimer à travers un roman qui ressort en poche ce que c'est que d'avoir un enfant autiste. Un bonheur que je ne souhaite à personne, c'est le titre. On continue évidemment de le feuilleter ensemble. Mais vous le savez, mon cher Samuel, la compétition n'attend pas. Et visiblement, la grande duchesse Maria Theresa, encore moins. Son Altesse serait même, selon Emmanuel Dutheil, un chouïa soupolé. Au Luxembourg, en tout cas, la presse en fait ses choux gras.
Oui, je pense que vous faites tous comme moi le matin. Vous regardez l'actualité de la famille grand-ducale sur leur compte.
Moi, j'ai une alerte Google.
Ouais. Ah, moi, je regarde sur leur compte Instagram, qui est pas mal. Cours grand-ducale pour celui qui aurait envie d'aller
Il faut imaginer la vie d'Emmanuel Dutheil.
Mais fait pareil avec le Bhoutan, avec.
Oui,
on fait pas que la Grande-Bretagne quand même.
Tous les pays.
C'est très sympa au Bhoutan. Enfin, bon, bref. Donc là, la cour grand-ducale. D'habitude, on a des photos très officielles. Le grand-duc qui descend d'avion pour aller à Jérusalem à la suite.
Effectivement, c'est intéressant. Ça le
non, mais il est allé lui aussi il y a quelques jours en mémoire des victimes de la Shoah, ce genre de choses. C'est pour ça que je vous donne l'une des dernières actualités de la cour grand-ducale. Hier. 3 photos d'un coup qui arrivent du couple grand-ducal, très amoureux, au bord du lac de Genève. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et là, un coup de tonnerre du grand-duc. Déjà, en 3 langues, ils ont publié le message. En luxembourgeois, oui, ça existe. En anglais et en français. Et qu'est-ce que nous dit le grand-duc? Pourquoi attaquer une femme qui défend les autres femmes, une femme à qui on ne donne même pas le droit de se défendre? C'est rarissime hein, que le grand-duc s'exprime à titre extrêmement personnel. On voit que le message a été écrit par lui. Et donc ça, c'était totalement, allez, on va dire quasiment inédit.
Mais de quelle femme parle-t-il?
Eh bien, de ça. propre femme, la grande duchesse Maria Teresa, qu'il a épousée un 14 février, qu'il avait rencontrée à Genève, justement, lors de ses études. Elle est d'origine cubaine, elle vient de la haute bourgeoisie cubaine, et ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école avant qu'elle arrive au Luxembourg. Alors pourquoi il défend comme ça sa femme? Parce que scandale à la cour grand-ducale, il y a un rapport qui a été commandé par le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, pour essayer de regarder ce que font finalement la famille grand-ducale de l'argent qu'il aurait attribué. Ils ont 11 millions d'euros quand même qu'il aurait attribué. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que, semble-t-il, dans les soirées en ville au Luxembourg, ce qu'on fait tous chaque samedi soir, à Luxembourgville, si vous cherchez, c'est assez joli, la petite vieille ville de Luxembourgville est assez jolie, et bien ils se racontaient déjà depuis quelques temps que la grande-duchesse était dictatoriale. Était méchante, faisait partir et fuir tous les personnels du palais. Alors c'est vrai, quand on regarde un petit peu la liste de ceux qu'on connaît, c'est un peu des officiels, pas mal de communicants sont partis, ce genre de choses. Même moi qui m'y intéresse, pour être très honnête, j'étais pas du tout au courant de ça. Mais là, depuis hier,
vous imaginez... pensiez qu'elle était sympa, quoi, la grande
duchesse. Ouais, franchement, je croyais qu'elle était très très sympa. Ouais.
Non, on est... c'est vrai qu'on tombe de haut, finalement.
Mais on tombe de haut,
moi, personnellement.
Mais
voilà.
Semble-t-il, les Luxembourgeois, eux, en tout cas ceux qui sont un petit peu au courant, ne tombent pas de haut, parce que c'était assez connu, semble-t-il, dans les dîners en ville, que la grande-duchesse avait ce caractère un petit peu euphorique, ou en tout cas ce caractère très, très explosif.
Mais alors la question là, que tous nos auditeurs, et j'ai envie de dire que toute la France se pose, et je vois dans les yeux de Samuel Le Bihan cette question, c'est quelles pourraient être les conséquences?
Eh bien, je suis allé lire la presse luxembourgeoise. Oui, là aussi, il y a des titres luxembourgeois. Alors, pour être très honnête, je suis allé lire la presse en francophone. Je ne vais pas aller lire en luxembourgeois parce que ce n'était pas tout à fait calé. Mais donc, arrêtez de vous moquer de moi, franchement.
Non, mais il est en train de nous faire 3 minutes sur la grande duchesse qui n'est pas gentille.
Eh bien oui, mais alors, vous savez quelles conséquences il pourrait y avoir? Et ça pourrait sûrement illustrer une de vos énièmes BD, là. Eh bien, on pourrait arriver, selon la presse luxembourgeoise, jusqu'à l'abdication du grand-duc.
Non, mais non.
Si. Oui, mais...
Ah ben ça serait un séisme.
Non, mais ce serait totalement un séisme. Et surtout que le grand-duc est quand même le chef d'État du Luxembourg. Alors, c'est un rôle très honorifique, surtout qu'il a perdu quelques prérogatives en 2008, puisqu'il avait refusé de signer une loi sur la fin de vie, sur l'avortement. Enfin bon, il y avait eu un petit souci, il avait perdu quelques prérogatives, mais ça reste quand même vraiment l'incarnation de la nation. Donc ça pourrait quand même avoir une conséquence extrêmement importante. Et puis, ça la fout mal quand même, quand le Premier ministre vient comme ça enquêter sur le... Mais je sens que vous moquez complètement.
Mais non, il faut tenir jusqu'au bout, Emmanuel. C'est comme un rôle. Samuel vous le dira. Il faut croire dans votre rôle jusqu'au bout. Hein.
Bah, à la fin, je peux pas vous la raconter. Le rapport n'a pas été encore remis.
Tout ça pour ça.
Eh bien, vous reviendrez nous faire un follow-up, comme on dit,
quasiment au quotidien.
Non, plus sérieusement, quand même, oui, 11 millions. Mais il y a quand même 11 millions d'euros qui sont en cause.
11 millions d'euros par an de dotation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, semble-t-il, les fonds sont utilisés de façon... à soutenir un peu le train de vie de la famille grand-ducale plus qu'à vendre le Luxembourg, parce que c'est quand même leur boulot. Ce sont les VRP du pays, ils courent partout pour essayer de vendre le Luxembourg.
Ils vendent pas très bien le Luxembourg, parce que moi, par exemple, j'avais jamais entendu parler de cette grande duchesse, par exemple.
Bah, quand même.
Écoutez, Emmanuel Lutheil, revenez nous dire vous en saurez plus, parce que là, le suspense est immense.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Pour apprendre, s'informer dans la bonne humeur, oui, telle est la promesse de Mathieu Noël chaque après-midi sur Europe 1. Alors on débutait la semaine en compagnie de l'écrivain Daniel Pennac. Dans son dernier roman La loi du rêveur, il aborde l'importance des rêves dans son processus de création littéraire. La loi du rêveur est parue aux éditions Gallimard.
Aujourd'hui, Daniel Pennac pour son dernier roman, La loi du rêveur, chez Gallimard. Alors, dans ce roman, on l'a dit, Daniel, il y a beaucoup de rêves, on passe d'un rêve à l'autre, on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous parlez de vos parents dans ce livre, évidemment, c'est le narrateur qui en parle. Vous dites, mon père et Moon, ma mère, étaient des parents si parfaits que je me demandais parfois si je ne les avais pas choisis moi-même avant ma naissance. Là, on est dans la pure fiction, où il y a une part de réalité là-dedans, dans cette analyse.
C'est une idée que les gosses chérissent.
Ouais.
Quand elle leur vient, ils se disent, oh là là, s'ils s'entendent avec leurs parents, ils se disent qu'ils sont géniaux parce qu'ils les ont choisis eux-mêmes. Et surtout, ça les travaille. Et à tel point que j'avais donné, vous savez, oui, oui, nous, quand on sera grand, les parents que nous serons nous-mêmes, etc. Et à tel point qu'un jour, j'avais donné à mes élèves le sujet de rédac suivant, vous vous réveillez un matin et vous constatez que vous êtes transformé en adulte, complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents, et vous constatez que dans la même nuit, ils ont été réduits à l'état d'enfant, c'est ça. Raconter la suite. Et je disais, et la suite, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas les Martiens, vous n'êtes pas sous comme des cochons. Non, non, c'est la réalité. Et alors, du coup, là, ça donnait des devoirs extrêmement intéressants parce qu'ils envisageaient leurs parents enfants. Et certains se faisaient des représentations tout à fait merveilleuses, d'autres réglaient des comptes en traitant leurs parents enfants.
La fessée aux parents.
Et donc oui, ça travaille les enfants, cette idée que du hasard de la procréation. Ils aimeraient y être pour quelque chose, quoi.
Eva, vous voulez dire ?
Combien vous avez d'enfants, Daniel Pénac ?
Alors, j'ai une fille.
Oui, et après ?
Et j'ai un certain nombre d'enfants adoptants, c'est-à-dire qui nous ont adoptés comme parents, ma femme et moi, depuis 35 ans. Alors là, il y en a un paquet, oui, il y en a beaucoup.
C'est hyper intéressant, ça ressemble à ce que vous disiez sur la famille qu'on choisit.
Oui, oui, c'est
vous une famille. Vous l'avez reproduite dans votre vie.
C'est une famille élective, avec des liens entre les uns et les autres qui se sont tissés, et qui finissent d'ailleurs par être des liens indépendamment de nous.
Ils peuvent passer
des vacances ensemble, ils bouffent ensemble sans nous, bien sûr.
Et ça forme une grande tribu.
Oui, oui, oui.
On parlait hors antenne, alors je ne sais pas si c'est Anissa Hamida qui vous cirait les pompes juste pour avoir les points, mais en tout cas, Anissa Hamida nous disait qu'il vous écoutait en livre audio, que votre voix le berçait en livre audio. Vous dites à Daniel Pénac que la lecture à voix haute est très importante, que l'oralité, ça peut amener des jeunes à la lecture qui, sinon, n'y viendraient pas.
Ben c'est comme ça que je l'ai pratiqué, moi, en classe. Quand vous êtes devant des gosses qui affirment ne pas aimer lire, si vous les croyez, ils sont foutus. Mais vous aussi, en tant que prof de lettres. Donc, pour les ramener à la lecture silencieuse et solitaire, j'ai volontairement transité par la lecture à voix haute.
Et ça a marché.
Oui, bien sûr, si vous lisez un texte absolument passionnant à voix haute. J'ai fait l'expérience avec Anissé quand il était mon élève. je lisais Le Vicomte pourfendu, par exemple, de Calvino. Et à la fin de la nouvelle, j'ai fait semblant d'avoir une syncope. Du coup, il a fini lui-même la lecture tout seul dans son coin.
Ça marche très bien. C'est mieux que le coup du rêve, ça.
C'est encore plus fort.
On est accroché. Cliffhanger, ils ont appelé ça les Américains, mais ouais. Ça existait depuis longtemps.
Évidemment. Alors les amis, c'est l'heure du quiz. D'où cette petite musique.
Ouais.
C'est un vrai faux très simple sur la famille. On connaît évidemment la famille Malocène
qui nous a bercé notre enfance. Hein,
la vôtre aussi.
Bah la vôtre et la vôtre, Mathieu.
Je pensais que c'était la mienne seulement, mais visiblement
mais non,
la vôtre aussi.
Bien sûr que non.
Voici un vrai faux sur la famille. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, au début des années 1900, la famille Jacuzzi comprend 7 frères, tous spécialistes en hydraulique et dynamique des fluides. La troisième génération inventera 70 ans plus tard le célèbre système de bain à tourbillon. Vrai ou faux?
Que ça soit vrai.
Les jacuzzi.
C'était pas les japonais en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi.
C'est la gueule, Jacques.
Jacuzzi.
C'est aussi en réalité.
Je vais dire vrai.
Vous dites vrai.
Oui,
complètement au hasard,
ouais,
mais comme quoi le hasard parfois peut être productif.
Ouais.
C'est vrai. 1956, invention par la famille Jacuzzi de la première pompe à hydrothérapie portable. 1969, Roy Jacuzzi, ça c'est vraiment un nom incroyable, intègre ce système à une baignoire. Les jacuzzi ont fait fortune aux États-Unis, mais viennent du nord de l'Italie. Daniel Pénac, il y a tellement de personnes portant le nom de Andersen en Norvège que le pays a eu 3 premiers ministres à la suite qui s'appelaient ainsi alors qu'ils n'étaient pas de la même famille. Vrai ou faux ?
Ça pourrait tout à fait être vrai. Enfin, oui, parce que, voyons, j'en ai connu 2, Jean-Paul Andersen. Il y avait Françoise Andersen et Lucille. Donc il y avait quand même un gars et deux filles. Non, oui, c'est vrai.
C'est vrai. C'est faux. Mais c'est particulièrement vicieux. D'habitude, les questions vicieuses, c'est pour vous, Eva.
Oui.
C'est faux, par contre, c'est arrivé au Danemark, en fait. De 93 à 2001, il y a eu 3 premiers ministres appelés Rasmussen, alors qu'ils n'avaient aucun lien de parenté. C'est dégueulasse en régie, hein, faire ça à Daniel Pénac.
Ouais.
Foutez de ma gueule. Daniel Pénac, Eva Rock, vous répondez en même temps. Les funérailles d'Elizabeth Taylor ont eu lieu en mars 2011. La famille a reçu une dernière volonté étonnante de la part de la défunte. Laquelle ? 1. elle a demandé à ce qu'on joue Heal the World de Michael Jackson pendant la cérémonie. 2, elle a demandé à ce qu'un caleçon de Richard Burton soit glissé dans le cercueil. Ou 3, elle a demandé d'être en retard pour l'enterrement car elle était toujours en retard dans la vie.
C'est drôle.
3,
c'est
moi beau. Je dirais 3.
3, et vous Eva?
Ah, moi le caleçon de Richard Burton.
Évidemment. Évidemment, c'est la mauvaise réponse. La bonne est celle de Daniel. Elle est arrivée en retard de 15 minutes car c'était déjà le cas dans la vraie vie. Elle est enterrée.
C'est génial.
Elle est enterrée à Forest Lawn à Los Angeles dans le même cimetière que Michael Jackson, qui peut donc lui chanter Heal the World toutes les nuits. Daniel Pennac, le chameau est de la même famille que le dromadaire. Pour l'un comme pour l'autre, sa femelle, c'est la chamelle, et son petit, c'est le chamelon. Vrai ou faux?
Le petit chamelon? Ah, il me plairait assez, le petit chamelon.
Ouais. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Le chamelon, c'est comme ça qu'on dit.
Pour les deux, pour le chameau et pour le dromadaire, ah ouais.
Et oui, même en science nat, on apprend des trucs. Eva Rock. Attention, c'est la question qui va vous départager. Accrochez-vous, Eva.
Oui, je m'accroche.
La tomate fait partie de la même famille que la pomme de terre.
Oui.
Du... Ah non, bon. Ah non, on n'a rien entendu, on n'a pas entendu. Ah non. Info incroyable, la tomate fait partie de la même famille que la pomme de terre. Oh là, non, ça sent pas bon cette question. Du coup, il a été possible de faire un croisement. C'est ainsi qu'est née la pomate. Vrai ou faux, Eva?
Oh non, c'est faux, Eva.
Ça, c'est vrai. C'est la famille des solanacées, comme les aubergines, les piments, les poivrons. Grâce à un greffage, on a réussi à créer une plante sur laquelle on peut récupérer les tomates cerises et des pommes de terre dans les racines.
Je vais être totalement honnête, j'aurais dit faux de toute façon.
Fascinante nature.
Oui, fascinante nature.
Oui, j'aime bien quand je dis ça. C'est Daniel Pennac qui
entend
le quiz. Étonnamment. Fellini connaissait-il la pommade? Certainement pas, sinon il en aurait fait un film.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h.
Il est 17h21, vous écoutez la compilation du week-end, les moments essentiels de la semaine passée. L'occasion de vous rappeler que chaque vendredi, vous pouvez assister à l'émission en public. Vendredi dernier, le 24 janvier, c'était l'actrice Isabelle Carré qui était invitée. Jusqu'à 18h, vous écoutez l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Avec notre invitée d'honneur, Isabelle Carré. Actuellement à l'affiche de Détail au Théâtre du Rond-Point à Paris. Isabelle, immense comédienne, qui va peut-être accepter de livrer à nos journalistes quelques secrets de pro pour améliorer leur diction, leur présence et leur permettre de se bonifier à l'antenne. Qu'est-ce qu'il faut faire avant une chronique, Isabelle?
Comme ça, pour détendre les lèvres. Jean Carmet faisait tout le temps ça et après, il rotait.
Eh bien, Ève Roger a entendu le message. C'est à vous, Ève.
Vous n'êtes pas obligé de roter, mais pour détendre les lèvres, ça marche bien.
Ève, c'est à vous.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, j'en étais sûre puisque je l'ai écrit, vous allez me dire, c'est pas nouveau, les femmes qui laissent pousser leurs poils. C'était le cas dans les années 70. Soutien-gorge en l'air et poils sous les bras. Et tout le monde se souvient des photos des aisselles touffues de Julia Roberts, Madonna, Beyoncé, même Laetitia Casta. C'est vrai. Mais détrompez-vous, arrive vers nous une génération de jeunes filles portée par la chanteuse Adèle, qui dans son clip Balance ton quoi exhibe.
Alors Angèle. Plutôt par Angèle, parce que Adèle n'a pas chanté Balance ton quoi.
Bah, peut-être qu'elle a des poils aussi, et qui dans son clip. Donc, dans Balance ton quoi, elle exhibe de très beaux poils soyeux sous les aisselles, des jeunes femmes féministes, mais qui n'ont pas renoncé à leur féminité et encore moins à leur sensualité. Je vais vous raconter l'histoire de Zélie. Alors c'est là, Isabelle Carré, vous pouvez prendre la photo numéro 1. Voilà. Zélie, elle a 21 ans. Regardez sa photo, je vous la montre. Je la décris à nos auditeurs. Elle est tout simplement ravissante. Cheveux longs, lèvres pulpeuses et rouges.
Elle veut pas faire un stage à la radio ?
Silhouette fine et des poils partout.
Ah bon ?
Comme un homme. Ça fait 6 mois qu'elle ne s'épile plus et je lui ai demandé quelle était la partie poilue de son corps la plus difficile à assumer.
Pour moi, je dirais les jambes parce que c'est vrai que dès qu'on se met en robe, en jupe ou même quand on fait un ourlet à son pantalon, tout de suite, ils dépassent et ils sont à la vue de tous les inconnus dans la rue, au travail. Alors que pour les autres parties, c'est beaucoup plus intime. Il suffit de mettre un t-shirt à manches longues ou autre.
Et voilà, et puis pour le maillot, un petit pareo à la plage et la honte a disparu. Mais vous allez comprendre à quel point le regard des autres est difficile à porter quand on ose franchir le pas. Écoutez Zélie.
Je pense que c'est une sorte presque de dégoût pour certaines personnes, en fait, comme si j'étais une femme sale, une sorte aussi de mépris, de préjugés en disant bon bah cette femme est une féministe radicale ou des choses comme ça.
Alors je vous passe aussi les injures habituelles, King Kong, Cheetah ou encore Nounours.
Mais si c'est difficile, Eve, pourquoi ces jeunes filles font le choix de ne plus s'épiler?
Alors, il y a d'abord les raisons matérielles. D'abord parce que c'est cher, forfait, demi-jambe maillot aisselle, vous avez une idée du prix? Je vous le dis, entre 40 et 60 euros chez une esthéticienne. Parce que c'est douloureux, je vous passe les détails. Ensuite, parce que beaucoup vivent cette épilation imposée comme un élément de la charge mentale. C'est-à-dire, il faut y penser avant d'aller à la piscine, avant d'aller à la plage, avant de mettre un short. Et puis, évidemment, avant un rendez-vous galant, ça c'est le passage obligatoire. C'est impossible autrement et c'est ça la raison de fond. Elles luttent contre cette norme imposée par la société avec leurs poils. Elles veulent déconstruire cette norme à la fois, un, pour montrer que ce n'est qu'une construction sociale et deux, que leur corps leur appartient et qu'elles en font bien ce qu'elles veulent. On va écouter là Amandine, 29 ans. Là encore, je fais passer une photo. Vous allez voir Amandine. Alors là, c'est une belle blonde, cheveux courts. Elle est très élégante, mais regardez bien ses jambes.
Ne montrez pas cette photo à Alain.
Donc, Amandine fait partie de l'association LPS, Liberté, Pilosité, Sororité. C'est LPS, donc, et elle va vous raconter comment le déclic lui est venu.
Ça a été ma petite fille de 3 ans qui me voyait m'arracher mes poils et qui était vraiment choquée, qui m'a dit « Mais maman, pourquoi tu fais ça ?» Et là, vraiment, j'avais pas envie de lui répondre parce que c'est plus joli, quoi. Parce que c'est pas vrai, c'est pas plus joli. Donc là, je me suis dit « Ok, j'arrête de m'épiler. »
Voilà.
Mathieu. Mais alors, attendez, vous m'avez écrit une relance que je n'assume pas parce qu'elle est terriblement machiste. Mais elles ont des conjoints, ces femmes. Et pourquoi pas dis donc, ces bonnes femmes qui s'épiment pas, elles arrivent à trouver des mecs. Alors, et ils en pensent quoi?
C'est bien de ne pas l'assumer, bravo.
Je n'assume pas.
C'est vrai qu'elles ont, évidemment, parce que vous avez vu, elles ont des femmes et des maris. Mais je vous renvoie à la question, Mathieu, d'abord, avant de vous répondre. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si votre compagne, dont vous nous parlez souvent ici, vous disait « j'arrête de m'épiler » Vous la soutiendriez?
Très franchement, c'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais après, tous nos critères, même de goût, sont façonnés par la société. Pourquoi est-ce qu'on aime des jambes lisses? J'en sais rien. C'est parce que j'ai toujours vu des jambes lisses. Peut-être qu'il faut s'habituer. J'en sais rien.
J'ai posé la question à mon mari ce matin, en me réveillant. Je lui dis alors, si je faisais ça? Il me dit, je sais pas. Il a répondu comme vous.
On est bon quand même. Hein.
Alors, tous ceux que j'ai interrogés.
Ça s'appelle beauté en touche.
Tous les conjoints que j'ai interrogés de ces femmes-là, d'Amandine et de Zélie, ils ont répondu parce qu'ils sont aussi de cette génération-là, c'est son corps, c'est son choix et je l'aime comme ça.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Le 31 janvier, elle a présenté le premier volet de l'émission Star à nu sur TF1. Le second volet aura lieu le 7 février. Star à nu, émission qui met physiquement à nu des personnalités pour sensibiliser au contrôle des cancers du sein, de la prostate et des testicules. Alessandra Sublet était donc l'invitée de Mathieu Noël ce mercredi sur Europe 1. Bienvenue dans l'équipe Sauvage, la compilation du week-end.
L'émission où les grands esprits se rencontrent. Les grands esprits de l'interview, en tout cas. Puisqu'il y a de ça quelques jours, j'ai osé demander à Thibaut de Montalembert s'il avait gardé le contact avec sa sœur qui était morte. Je le dois à celle qui a toujours été mon modèle en matière de n'importe quoi journalistique, ma boussole, mon étoile du berger de la Louse, notre invitée du jour, ma vieille complice Alessandra Sublet, qui avait fait beaucoup plus fort que moi face à François Hollande.
Votre maman, qui elle était assistante sociale, c'est vraiment votre confidente et ça l'est encore aujourd'hui. Vous vous appelez une fois par semaine, paraît-il.
Non, hélas, ma mère est décédée.
À jamais mon idole, Alessandra.
Oui, mais on est resté très proche.
Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. En plus,
c'était fantastique.
Pris que ça, finalement.
Non, pas du tout. Bon, en même temps, il était vraiment au bout du rouleau à ce moment-là. Il fait grande traversée du désert politique, du désert personnel.
Il pouvait pas mal le prendre.
Je pense qu'il pouvait pas mieux tomber que de venir chez nous.
Alors, Alessandra, vendredi soir, vous se recommande d'une nouvelle émission de TF1 que j'ai envie de qualifier de papiquer des hannetons, Star à nu, les stars.
Allez voir le spectacle d'Alex Lutz parce qu'il essaye de vous expliquer cette expression et c'est très drôle.
Ah oui, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on me l'explique cette expression. J'irai voir Alex Lutz. L'idée de la soirée, c'est d'inciter au dépistage. Évidemment, on ne se met pas à poil gratuitement, c'est pour inciter les gens à aller se faire dépister. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnalités qui ont accepté de faire Star à nu à vos côtés ont été pour la plupart confrontées au cancer dans leur entourage, mais ils n'ont pas fait, eux, d'examen de dépistage. Comment on peut expliquer ça?
C'est étonnant. Est-ce que vous êtes déjà allé faire une petite révision testicule-prostate?
Exactement, non.
Et ben voilà.
Et c'est vrai que. Parce que, j'ai l'âge.
Non, mais vous avez l'âge, et puis surtout, on se dit toujours demain. C'est pas grave, il y a le temps, on remet. Sauf qu'à un moment donné, en fait, c'est bien d'aller se faire contrôler parce que d'abord, c'est dans la plupart des cas bénin, c'est-à-dire vous n'avez certainement rien, mais ça vous permet aussi d'être tranquille. Un cancer dépisté à temps, c'est un cancer guéri.
Eva.
Mais alors, je me suis justement posé une question. Les personnalités qu'on va voir pendant l'émission, elles vont se faire dépister. On les voit chez les médecins. Est-ce que vous avez
contrôlé, parce que je crois qu'on ne dit pas dépister.
Ouais, contrôler. Ouais. Est-ce que vous avez imaginé que l'un d'entre eux.
Ah oui, si, si on découvrait quelque chose.
On s'est posé la question effectivement, mais en même temps, Et puis, c'est pas une émission de voyeurs non plus.
C'est pas sur le côté voyeuriste, c'est sur le côté émotionnel, quoi. Ouais. Parce qu'on les voit déjà flipper de chez les médecins.
Ils ont très peur d'y aller. Ouais. Mais parce que pour un garçon, c'est pas facile d'aller se mettre un petit doigt dans les fesses quand même. Ouais. Nous, les femmes.
C'est vrai.
Mais d'ailleurs, je pense que vous le craignez aussi. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que dans l'émission des femmes que vous verrez le 7 février, beaucoup ne sont jamais allées faire de mammographie non plus. Moi, ça me paraît dingue. Moi, j'y vais tous les 2 ans. Non mais c'est important, il faut y aller. Enfin je veux dire, moi j'ai 43 ans, c'est quelque chose qui doit devenir automatique en fait quoi.
Elle n'a jamais eu peur de se mettre à nu, et non. Je veux dire qu'on n'a pas peur de voir ce que ça donne. Alessandra Sublet commence les feuillages dès cet après-midi sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Il n'est pas exagéré de dire que sans mon invité du jour, il n'y aurait jamais eu d'équipée sauvage. En effet, c'est en l'observant, chaque soir, au temps où j'étais chroniqueur sur C'est à vous, que j'ai appris le métier d'animateur. Car travailler aux côtés d'Alessandra Sublet, ça vaut toutes les écoles de journalisme. Sa modestie l'empêche de le rappeler, mais elle a encore à ce jour détentrice du record du monde de la question la plus mal formulée de toute l'histoire de l'audiovisuel.
Quand on vient vous chercher il y a 18 ans pour traduire les Harry Potter, est-ce qu'on vous propose un cachet plus important de Harry Potter en Harry Potter, ou est-ce que ça a toujours été le même? Parce qu'évidemment, avec le succès que l'on connaît à ce livre et à cette histoire, on se dit, bon, est-ce que tout le monde mange un peu du pain, du bon pain, quoi?
Est-ce que tout le monde mange un peu du pain, du bon pain? Eh bien
oh
voilà, Alessandra, ça c'est les moments qu'on a vécu ensemble.
Les moments de solitude en
ça
direct.
Ça fait
quoi.
Du bien. Oui, surtout que personne ne vous vient.
Non.
Bien dans ces moments.
Souvent c'est le jeudi parce qu'on enregistre deux émissions et Anne-Elisabeth Lemoine, ils font pareil encore.
Et c'est fatigant.
Et souvent le jeudi soir, elle me dit, je sais plus qui est l'invité, que la question. Je sais.
On s'en mêle quoi.
Oui, on s'en mêle.
Une question que je me posais, on a beaucoup parlé du mouvement MeToo dernièrement. Est-ce que vous, dans votre carrière en télé et radio, vous avez été confronté à la misogynie ou à des situations limites, borderline? Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes une très belle femme donc. Pour l'imaginer.
Merci. On y est confronté. Je me rappelle lors de l'émission Un soir à la Tour Eiffel qu'on avait lancé avec Pierre-Antoine Capeton, le producteur à la Tour Eiffel. J'avais pris des papiers de journalistes, dont De Greff.
Ah oui.
Oui, le grand De Greff, qui avait fait un papier dans Le Monde en disant que était-ce bien légitime de laisser les manettes à une émission culturelle à une femme comme moi.
Mais
c'est classe ou pas?
Ah, c'est étonnant.
C'est étonnant. Donc,
et c'était il n'y a pas si longtemps, quand même. Hein.
Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et en l'occurrence, oui, mais même les débuts de C'est à vous. Comment mettre une femme à 19h à l'antenne?
Ah, c'est une question qui s'est posée à l'époque.
Je les ai tous gardés, ces papiers. Moi, j'en ai jamais fait état parce qu'en fait, ça a toujours glissé sur moi. Je pense qu'il faut se défendre et arrêter de se prendre la tête. En l'occurrence, moi, je me suis toujours bien défendue. Ça ne me pose pas de problème.
Quand je vous regarde, je pense, je ne sais pas pourquoi, à Virginie Efira, une animatrice
mais
qui est passée...
On est très amis avec Virginie.
Vous la connaissez, elle est passée de l'autre côté de la caméra. Est-ce qu'une carrière au cinéma, ça vous a jamais titillé? On n'est jamais venu vous chercher?
On me l'a proposé, mais...
Mais qui vous l'a proposé?
Moi, j'ai eu de très belles propositions. Mais il n'y a encore pas si longtemps. Je ne sais pas. Peut-être.
Mais
voilà.
Attendez, alors, sans révéler des noms de ça, on vous voit, les gens qui vous ont contacté, ils vous ont contacté pour un thriller, pour une comédie.
Pour un très joli rôle dans un film comédie qui fait d'ailleurs un gros carton, j'aurais peut-être pu dire oui.
Oui, c'est con.
Mais non, en fait, c'est des très belles propositions. Le problème, je vais vous dire, je suis très amoureuse de mon métier. Animateur est souvent un mot galvaudé, un peu cheap, et souvent on se dit c'est une transition pour autre chose. Non, moi j'aime mon métier, et puis je m'épanouis aussi dans mon rôle de productrice. Mais pourquoi pas? J'étudie la chose.
Elle ouvre la porte aujourd'hui sur Europe 1. Steven Spielberg, si tu nous écoutes.
Oui,
Alessandra
bah,
est dispo entre avril et mai prochain. Elle a un tout petit créneau, mais sur 15 jours, elle veut bien faire ton prochain film.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
2 heures pour se détendre et apprendre. C'est ça l'équipe sauvage avec Mathieu Noël, sa comparse Eva Rock et les journalistes d'Europe 1. D'ailleurs, on va retrouver tout de suite l'un de nos correspondants en région pour parler d'un trésor manuscrit retrouvé dans une école dans le nord-est de la France. C'était jeudi sur Europe 1 et en présence de la romancière Anne Goscinny qui, on le rappelle, vient de sortir le tome 4 de son roman jeunesse Le Monde de Lucrèce, paru chez Gallimard.
2 heures pour rire et découvrir en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 et même des meilleurs journalistes d'Europe 1 en région. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour Mathieu.
À Besançon, c'est l'émotion après la découverte d'un poème de Victor Hugo, un poème oublié, un manuscrit intitulé « Les enfants pauvres ». En fait, vous nous parlez de ménage aujourd'hui. C'est pas très poétique tout ça.
C'est ce qu'on croit Mathieu, mais écoutez cette histoire. Collège Victor Hugo le mois dernier, c'est donc à Besançon. Grand rangement de l'intendance. Saine idée, évidemment. Classement, archives, compta... Compta, archive.
Je me suis endormi déjà.
Victor Hugo, un manuscrit
non.
Avec signature. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un original, véritable. Ah, voilà surtout ce que j'aime. Faible front dans l'ombre englouti, paré d'un triple diadème. Innocents, pauvres et petits, ils sont meilleurs que nous ne sommes. Ah, donnons-leur en même temps, avec le pain qu'il faut aux hommes, le baiser qu'il faut aux enfants. Ça s'appelle donc les enfants pauvres.
Mais alors, comment ce poème s'est retrouvé abandonné là ?
Alors, ces deux simples quatrains ont été offerts en 1868 par Victor Hugo à une loterie pour les indigents de Besançon, sa ville de naissance. Le lot, donc le papier avec le poème dessus, est ensuite racheté par un bouquiniste du coin, puis par la coopérative scolaire du collège en 1951. 6000 francs. Fierté du collège, fierté oubliée dans une armoire entre deux documents administratifs.
C'est dingue.
Ouais. Oubliée jusqu'au ménage du mois dernier. Il trône aujourd'hui ce poème dans le bureau du principal, très ému, dit-il, de l'avoir tous les matins sous les yeux. Et même si vous l'avez tout de suite compris en entendant un morceau à l'instant, Mathieu et
Eva. Eva, c'est ça, Eva, c'est ça ton Eva,
ouais, jamais, non, c'est Eva. Ouais.
Vous le savez évidemment, chers amis, ce poème est en fait un extrait légèrement modifié de Dieu est toujours là dans le recueil Voix intérieures de 1837.
Oh, mais c'est quand même une histoire incroyable. Ah et surtout, moi, si j'avais été le proviseur, je me le serais mis dans la poche et je l'aurais vendu.
Ah, mais vous êtes horrible.
Quel escroc.
Oh là là, quel escroc. Oui. Moi, je vais faire le ménage de printemps chez moi, on sait jamais.
C'est jamais. Ben voilà. On va peut-être sur quelque chose d'intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Arthur Mbaché.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et un invité d'honneur, ce sont les dernières minutes de notre compilation du week-end. Dans un instant, on va retrouver Olivier Pouls pour sa recette de dernière minute facile et bon marché, une recette basque. Mais avant, eh bien, on retrouve la comédienne actrice Isabelle Carré, invitée vendredi 24 janvier sur Europe 1 lors de l'émission En Public.
Aujourd'hui, on est ravis de passer l'après-midi avec Isabelle Carré, ou devrais-je dire Yvonne.
Yvonne de Gaulle, oui.
Yvonne de Gaulle, bientôt au cinéma, bientôt, le 4 mars, je crois.
Oui.
Alors ça, quand on reçoit...
Avec Lambert Wilson.
Avec Lambert Wilson, le scénario pour incarner Yvonne... Elle est assez secrète, Yvonne de Gaulle, finalement. Elle a une image un peu bobonne, tout ça. On ne sait pas qui elle était, en fait. Comment on interprète Yvonne de Gaulle ?
Eh bien, on l'interprète avec gratitude, parce que c'est vrai que c'était un personnage assez fascinant, qui avait une petite fille trisomique, on ne le sait pas beaucoup. Et qui a été créée une des premières fondations en fait pour s'occuper des enfants trisomiques. Voilà, c'est un personnage. Moi, ça me plaisait de jouer ça parce que justement, j'avais pas besoin d'être dans l'imitation, ce qui est pas mon fort.
Mmh. Oui, parce qu'il y a pas beaucoup d'images d'elle, sa voix.
On n'a jamais entendu sa voix.
On la connaît pas.
Et je pense qu'elle jouait beaucoup avec cette image, comme vous disiez, un peu bobonne, un peu derrière ses casseroles, comme ça. Ça lui convenait en fait pour être libre. Et j'aime bien cette idée de pas forcément vouloir exister partout, tout le temps. On est un peu une époque où, voilà, de selfie où il faut tout le temps se montrer. Et j'aime bien, c'est moi, les personnages qui restent discrets. Et lumineux.
Discret, lumineux. Vous-même, vous parlez comme une journaliste. Voilà, 2 heures avec nous et ça y est, vous devenez plus journaliste que les journalistes. C'est une catastrophe. François Berléand, qu'on recevait hier, est un bon vivant. On a beaucoup... on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas beaucoup bu. On a bu avec modération. Une bonne bouteille qu'on nous avait apportée. Il paraît que vous partagez cette passion pour le vin, en tout cas pour les bons petits plats. Ça, c'est vrai que...
Oui, le vin, je bois modérément, mais
bien
tous
sûr.
Les jours.
tous les jours,
oui,
quand même.
Oui, tous les jours. C'est ma façon d'atterrir après le spectacle, en fait.
Vous pouvez boire avant une pièce ou pas ?
Alors, je dois dire 2-3 gorgées, mais plus.
Est-ce que ça aide à vaincre le stress ou c'est un mauvais conseil à donner, justement, parce que, au contraire,
c'est entre deux, quoi. Il faut savoir s'arrêter au bon moment.
Il faut se connaître. Il faut connaître la bonne dose.
Il faut se connaître. Parce que l'effet du trek, en fait, décuple l'effet de l'alcool.
Ah oui.
J'ai le souvenir, par exemple, qu'on avait fêté un jour avant une représentation, un anniversaire. Je m'étais un petit peu lâchée sur le champagne et je me suis fait une petite parano sur scène. J'avais l'impression que je n'allais pas pouvoir aller au bout parce que l'effet de l'alcool était vraiment décuplé, quoi. Donc, trou de texte, petite montée d'adrénaline, coup de chaud.
Ah oui, il vaut mieux éviter quand même.
Mais vous êtes vraiment très propice au stress d'avant spectacle ?
Non, j'ai pas le trac en fait.
Non.
J'ai pas le trac, mais c'est vrai que c'est assez bizarre le trac parce que vous pouvez être. C'est pas forcément à la première, ça peut être à la 15e représentation, tout à coup une petite montée comme ça, vous savez pas pourquoi.
Oui. Enfin, en même temps, avec 3 verres de Chablis, c'est sûr qu'on est moins sujet au trac. Justement, puisque vous êtes une bonne vivante, je vous présente l'antidote à la monotonie culinaire. Mesdames, si en cuisine votre mari a la créativité d'un bulot neurasthénique et que vos dîners en amoureux ressemblent à ça.
Après le thon, nous mangerons une omelette. Et des bananes.
Quittez-le tout de suite et sortez avec Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, bonjour Isabelle.
Alors,
bonjour.
Chaque soir dans Délices in Extremis, Olivier, vous sauvez notre palais et parfois même notre couple. Au menu ce soir.
Mais j'espère que j'ai sauvé le vôtre à de nombreuses reprises.
Vous l'avez
déjà.
Sauvé à de nombreuses reprises. Le sauverez-vous jusqu'au bout ? Ça, je ne sais pas. Il va falloir me donner encore d'autres recettes.
Bon, Isabelle, est-ce que je vous emmène au Pays Basque ?
Ah, chouette !
Voilà. Regardez. Encore des points marqués.
Vous savez y faire, vous. Hein.
Oui.
La cuisine du Pays Basque, magnifique quand même, ce pays de cocagne.
Les piquillos farcis.
Voilà, le piment d'Espelette, les jambons, les vins d'ailleurs aussi, remarquables.
Les rouligis.
Voilà, et moi je vous propose de faire un ochoa. Alors ça s'écrit O-X-O-A, mais ça se prononce ochoa. Ochoa, qu'est-ce que ça veut dire en basque ?
D'agneau, de veau ?
Ah, mais je vois que vous connaissez bien ça.
Bah, dis donc, je connais le Pays Basque quand même.
Ouais, ochoa, ochoa, ça veut dire.
Il me prend un con par vos
yeux. Non, mais bon.
Je vais au McDo tous les jours et je. Non, parfois, il m'arrive de manger des trucs pas dégueux.
Et donc, de l'ochoa. Bah, moi, je vous fais de l'ochoa de veau. Je trouve que ça, c'est une viande qui se prête particulièrement bien.
Vous avez déjà vu un veau ?
Oui, ouais, bah, oui, j'en ai
déjà
mangé.
Ça vous attendrait pas.
Bah, ma foi, quand il est découpé en petits morceaux.
Oui, bon, d'accord, enchaînons, enchaînons. Amis vegan qui nous écoutaient, restez sur Europe 1. Olivier Poulpe.
Et parfaitement bien accommodé, comme ça va être le cas dans un instant. Donc, ochoa, ça veut dire haché. Donc, on va prendre des morceaux de veau, du tendron de veau, par exemple, qu'on va couper en petits morceaux. On va y rajouter des poivrons, c'est indispensable, de l'oignon, un petit bouquet garni. Moi, je rajoute un petit peu de vin blanc aussi, parce que je trouve que ça donne du goût. Et puis surtout, le fameux piment d'Espelette, l'emblème du Pays Basque, ce piment que le monde entier nous envie. Appellation d'origine contrôlée et désormais protégée depuis 2000, le piment d'Espelette va donner son goût à cette ochoa. Et contrairement à ce qu'on pense, le piment d'Espelette n'est pas un piment qui est très fort, il n'est pas très puissant.
Il faut quand même le doser, non ?
Enfin... Alors, évidemment qu'il faut le doser, mais vous savez, il y a une gradation, il y a une échelle de gradation sur les piments qui va de 1 à des chiffres très élevés pour les piments qui arrachent, mais vraiment de manière colossale. Et en fait, le piment d'Espelette, il est 4 seulement sur l'échelle,
sur l'échelle de 10
c'est sur une échelle qui va plus haut que ça. Et en fait, 4, c'est à peine plus fort que le poivre. Donc vous pouvez, franchement, mettre du piment d'Espelette.
On peut avoir la main lourde sur le piment d'Espelette.
Donc l'idée, c'est de faire compoter ensemble vos poivrons que vous avez coupés en petits morceaux.
Ça veut dire quoi, compoter ?
Ben, ça veut dire cuire lentement, doucement, sans brûler le fond de la casserole, mon cher Mathieu. Voilà, avec
vous savez que moi, niqué une casserole à la maison l'autre jour. Ma femme, ma compagne m'a dit, ça c'est Poulpe, il nous a niqué la casserole.
Pas du tout.
Si. Si tu parlais, tu servais l'apéro en même temps, le truc est cramé.
Faux.
Tu me dois une casserole.
C'est faux.
C'est pas faux, c'est vrai.
Moi, je fais ça à toutes mes casseroles, moi.
Non, il faut y aller tout doucement, donc un petit peu de matière grasse.
On compote.
Voilà, on compote tranquillement, on rajoute la viande, on rajoute notre vin blanc, on rajoute le piment d'Espelette et on laisse cuire à feu doux pendant 45-50 minutes. Ce qui est important, c'est que la viande commence à devenir très moelleuse et puis que nos oignons, nos poivrons soient vraiment compotés. Puis il n'y a plus qu'à servir. Alors on sert ça là-bas, soit avec des pommes de terre, vous pouvez le servir avec du riz aussi, c'est délicieux. Et évidemment, on va chercher une belle bouteille des rouleghis dans la cave pour accompagner
là,
ce
vous avez,
bon repas.
Il y a eu une tentative de prendre l'accent du sud-ouest, là.
Et rouleghi, on dit là-bas.
Ah oui, on ne dit pas comme ça là-bas, mais vous avez tenté de le dire.
Je vous garantis que si.
Il y avait un peu de belgitude qui rentrait dans cette expression. Merci beaucoup, Olivier Poulpe, pour cette recette. Olivier Poulpe, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Chère Isabelle, tous les jours notre invité est opposé à Eva Rock. On parlait tout à l'heure des titres de romans. On va donc faire un vrai faux. Chacun votre tour, je vous donne un titre, soit d'une pièce de théâtre, soit d'un film. À vous de me dire s'ils sont véridiques ou totalement inventés. Eva Rock, on commence avec vous.
Oui.
Femme à lunettes, femme à brouette. Vraie ou fausse pièce de théâtre ?
Ah oui, heureusement que vous précisez. Non, c'est faux. J'espère que c'est faux.
Mais non, il ne s'agit pas
faux.
D'espérer, il s'agit de me donner une
faux.
Réponse.
Je dis que c'est
vous faux. Dites c'est faux
oui.
Est-ce que vous êtes bien sûr de votre réponse?
Oui, je suis sûr de ma
bon,
réponse.
Bon, d'accord, fausse pièce. Okay. Je tente à chaque fois de la piéger. Je suis toujours de votre côté, Isabelle. Isabelle Carré, plus moche que Frankenstein, tu meurs. Vrai ou faux film?
Faux film.
Est-ce que c'est vraiment votre réponse, Isabelle?
En tout cas, je ne l'ai pas vu.
Mais si vous ne l'avez pas vu, ça voudrait dire qu'il existe.
Ouais.
Vrai film, ouais. Oh, c'est une bonne réponse Isabelle Carré. Vrai film sorti en 75 avec Aldo Macchione.
Ah génial. Ah mais j'adorais Aldo Macchione.
Je vous laisse libre de cette critique.
Ça vous a pas marqué?
Non, ça ne m'a pas marqué. Eva Rock.
Oui.
Les surdoués de la première compagnie. Vrai ou faux film?
Ah mais non, là vous avez fait un mix
un
de
mash-up.
Tout. Oui, un mash-up. Oui.
Eh ben non, c'est un vrai film.
Non.
Avec Darry Cole en 1980. Darry Cole qui lui me manque.
Ah oui, moi aussi. Darry Cole, oui.
Oui.
Et en petit rôle, il y avait même Florent Pagny dans ce film que je vous invite à découvrir tout court.
C'est les surdoués à quoi au...
Les surdoués de la première compagnie.
Ah oui, d'accord.
Isabelle Carré, pleure pas la bouche pleine.
Ah si, ça existe.
Ça existe ?
Ouais.
Oui, c'est une bonne réponse, mais comment ça ? Avec Bernard Ménez et Jean Carmet en 1973.
Ouais, Jean Carmet, voilà.
Ah, je ne connaissais pas ce
je
film.
Je suis fan de Jean Carmet. Ah bah. J'ai joué avec lui. Là, vous avez l'impression que j'ai 200 ans.
Mais, vous
j'ai commencé très jeune.
Vous avez commencé à 17 ans ?
J'ai commencé à 17 ans et avec... non, c'était pas mon premier film, c'était mon deuxième avec lui. Et j'avais un peu l'impression d'être chercher l'erreur, un intrus s'est glissé parmi vous, c'est-à-dire qu'on avait des scènes à table avec Deneuve, Bourringer, Jean Carmet, et Giraudoux et moi.
Et ça s'est bien passé.
C'est assez intimidant pour une première, ouais.
J'imagine. Et Baroque.
Oui.
Vous êtes en train de perdre, vous le savez.
Oui, Mathieu.
De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Vrai ou fausse pièce de théâtre?
Ah oui, je dirais vrai.
Mais ne donnez pas d'indication à Eva.
J'ai dit vrai.
Vous avez dit vrai.
J'ai dit vrai.
C'est une vraie pièce. Et en plus, c'est une pièce avec Isabelle Carré en 2015 au Théâtre
j'ai
de
mis
l'Atelier.
En scène, ouais. C'était ma seule et première mise en scène. Peut-être la dernière, je ne sais pas.
Mais c'était un beau titre, en tout cas.
Ah ouais.
Un titre intéressant.
C'est un film aussi magnifique. C'est le deuxième film, je crois, de... Voilà, là j'ai un trou de nom.
C'est Paul Newman.
Voilà, Paul Newman.
Paul Newman,
quand même.
Ah oui, c'est un nom qu'on effectivement, vous pouvez connaître. Isabelle Carré, attention, c'est la question qui va vous départager. Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique? Vrai ou faux titre de film?
Ouais.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé mieux dans...
Ça paraît invraisemblable.
Dans, c'est, la un production.
Vrai, c'est un vrai titre de film. Un film d'Ettore Scola avec Bernard Blier, sorti en 78 en France. Effectivement.
Ettore Scola, pourtant.
Et bah oui. Pourtant. Qui remporte ce quiz?
Bah, allez-y.
C'est Isabelle qui remporte quand même le quiz. Isabelle, vous avez tourné quelques comédies, je me souviens notamment de 4 étoiles avec José Garcia.
Oui.
Il y avait des répliques assez bien senties. Oui, il se pourrait d'ailleurs qu'on en entende d'ici la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez être victime du syndrome Sandrine Bonner, c'est-à-dire femme hyper sympa dans la vie, hyper drôle, et au cinéma, pas beaucoup de propositions en comédie, parce qu'une image un peu intello ou...
C'est à cause des lunettes, ouais.
C'est ça. Vous recevez pas beaucoup de comédies.
Je peux pas mettre de lentilles. Je peux pas, mes yeux ne le supportent pas.
Comme quoi, à quoi ça tient une carrière?
Voilà.
Isabelle, quand je disais tout à l'heure que je vous aimais beaucoup, c'est pas du tout une flagornerie, c'est sincère parce qu'on sent tout de suite quelque chose qui émane de vous, c'est la simplicité et l'humilité qui n'est pas la vertu première de toutes les actrices, de tous les acteurs, tous les artistes qu'on reçoit.
On a mauvaise presse, les actrices, mais on n'est pas si pire.
Non, vous n'êtes pas si pire, mais vous particulièrement pas si pire, j'ai envie de dire. Vous avez déclaré, je ne tiens pas à être tête d'affiche, les seconds rôles me vont très bien, ce sont les histoires qui m'importent, le plaisir des mots, devenir star comme Adjani et ne faire qu'un film tous les 3 ans, faire la couverture des magazines, non merci, c'est pas mon truc.
Oui, non, moi j'adore Adjani, en plus j'avais plein de photos d'elle. Non, c'est vrai, toutes les actrices que j'aime, je les mets en photo dans mon bureau, enfin plus maintenant j'ai déménagé, mais je faisais ça, j'avais plein de photos d'elle.
Ah, vous pas enfant, vous le faisiez adulte?
Ouais, enfin 20-30 ans quoi. Non, c'est pas du tout une critique par rapport, je veux pas du tout... tiré non pas sur l'oiseau moqueur mais sur Adjani, mais c'est vrai que ça me va très bien les seconds rôles. Pourquoi? Parce que c'est aussi une façon, on vous propose des choses différentes dans les seconds rôles en fait, parce qu'il y a moins de risques à prendre. Alors que dans un premier rôle, le metteur en scène se dit il faut quand même être sûr qu'elle sache le faire, et souvent du coup on se répète un peu. Et on finit par se caricaturer au bout d'un moment. Donc, prendre un petit risque, quitte à se planter d'ailleurs, c'est pas grave. Je pense qu'on a le droit à l'erreur. À partir du moment où ce qu'on a fait, c'était sincère, en fait.
Mais voilà. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes beaucoup planté dans votre carrière? Il y a des rôles que vous...
Non, je vais plus voir les films que je fais à cause de ça.
C'est-à-dire
parce que j'ai trop fait 10 fois le tour du pâté de maison en pleurant à la sortie de projection.
Mais non, vrai. Vous regrettez certains films?
Ben, c'est pas les films que je regrette, mais c'est ma prestation à moi. Ouais, je me dis, bon, ça c'était pas terrible, et du coup, je fais le tour du pâté de maison en pleurant. Et à un moment, je me suis dit, ben, je vais arrêter de faire le tour du pâté de maison. Comment faire?
La prochaine fois, venez à la maison.
Je ne vais plus le voir.
Faites pas le tour du pâté, venez directement chez moi. Elle est différente, et c'est pour ça qu'on l'aime. Je me mets à parler comme Barbe Olivier. Oui, décidément, Isabelle Carré me fait de l'effet.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Voilà donc pour ces 2 heures d'infos et de découvertes. Mathieu Noël, bien sûr, revient demain dès 16h en compagnie d'Eva Rock, sa grande complice, de nos journalistes compétiteurs, avec des sujets passionnants, étonnants, pertinents, sans oublier les invités de la semaine passée. Vous retrouverez donc Isabelle Carré, bien sûr, mais aussi Samuel Le Bihan, l'écrivain Daniel Pénac, la romancière Anne Goscinny et l'animatrice Alessandra Sublet. Dans un instant, 2 heures pour faire le tour de l'actu, c'est le grand journal du soir sur Europe 1, orchestré par Wendy Bouchard. Alors à tout de suite.